Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Franchement, je crois que tu m'as jamais fait de la peine.
Ah bah attends, je vais régler ça tout de suite.
Que la gueule était armée, tu l'as dans... Elle était dans la chambre, là, la balle, c'est quoi?
T'as un Glock?
Non, mais tu vois, je pense que tu m'as... Je n'ai pas souvenir d'un moment où je me suis dit, Marie, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, là, ça m'a blessée. Ce qui est OK, ça arrive, je
veux dire...
On n'est pas la même personne, hein, donc c'est tout à fait possible. Et dans la plupart de mes proches, je peux me souvenir d'un truc où j'étais là. Ça m'a fait de la peine, mais j'ai pas de souvenir. Et c'est quand même pas mal en plusieurs années d'amitié
positif,
de
hein.
Jamais même déçu, tu vois.
Puis je crois aussi, tu vois, moi je suis dans des types d'amitié où il y a des périodes où on va parfois se voir de façon hyper intense et puis d'autres où il va y avoir des creux, mais quand on va se revoir, ça va être exactement comme avant. Nous, on se voit fréquemment parce qu'il y a BFF qu'on fait ensemble tous les mois. Moi, je me disais à un moment, par exemple sur le créneau qu'on fait là tous les mois, est-ce que je le fais évoluer? Est-ce qu'on arrête le concept? Et enfin, il n'y a aucun monde dans lequel je me disais « Ah, mais j'arrête le truc avec Mimi. Je veux que si je crée un nouveau concept, que ce soit forcément avec toi et que cette récurrence elle soit toujours là. »
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations et aussi parfois te divertir. L'amitié du jour est celle de Marie et Mimi. Elles se rencontrent sur leur lieu de travail. Au début, elles sont de simples collègues jusqu'au jour où la vie de Marie est bousculée. Elles trouvent alors une oreille attentive et honnête du côté de Mimi. Leur amitié devient plus concrète et aujourd'hui, leur relation est rythmée par leur vie d'indépendante, leurs projets professionnels communs et leurs discussions interminables pour refaire le monde. Elles ont même créé leur propre émission BFF en live sur Twitch pour partager leur histoire. Tu vas l'entendre dans cet épisode, on rigole beaucoup. Marie et Mimi se livrent sans filtre, elles en ont l'habitude. Et pour suivre leur travail, tu trouveras tout en description de cet épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
You can count on me, like one, two, three, I'll be there. You can count on me, cause I can count on me.
À quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Salut Marie, salut Mimi, merci d'être avec moi dans Friendship. Je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui, Marie, et de vous accueillir dans ce podcast. Mimi, c'est ta deuxième fois, mais en tout cas, tu as accepté, donc c'est que ça n'a pas dû être trop désagréable la première fois.
Quand c'est bon, on y revient.
Parfait. Et donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Mimi, tu vas présenter Marie, et Marie, tu présenteras Mimi.
Marie, c'est une meuf trop... Ah, elle n'a pas révisé, elle est là, non.
Oui, mais toi, t'as l'habitude, donc c'est de la triche.
Ouais, vous n'avez pas vu ma tête, là, mais j'ai fait « Oh merde !» Ça fait « Oh shit
!» Marie, c'est une meuf trop cool, déjà, il faut le dire. Elle est vraiment super chouette et talentueuse, challengeante dans le bon sens des choses.
Ça, c'est...
Et...
Tout le monde va croire que je suis de droite instantanément.
Non, Marie est une professionnelle de talent qui a été passionnée par l'entrepreneuriat depuis son plus jeune âge.
C'est faux. Marie est très de gauche, il faut le savoir. Hein. Si vous ne le savez pas, allez voir ses lives sur Twitch, puisque Marie fait des lives sur Twitch, entre autres. Tu es créatrice de contenu, chef de prod, productrice, régisseuse, organisatrice d'événements. Et un milliard d'autres choses qui fait que c'est un plaisir et une inspiration de te côtoyer, à la fois personnellement, puisqu'on est amis depuis déjà pas mal d'années, et professionnellement, puisqu'on a le bon goût de travailler ensemble, rapport qu'on fait un petit peu le même métier. Et ton chat est un petit peu la copie carbone de mon chat, ce qui, je pense, est une bonne indication de notre amitié.
On parle souvent de nos chats, effectivement. Donc, beaucoup, ouais. Bah, merci, c'est trop gentil. Bah, c'est vrai que ça fait vraiment plusieurs années qu'on est potes. On s'est rencontrés à l'époque chez Mademoiselle. Toi, t'es créatrice de contenu, avant tout. Beaucoup de podcasts, une chaîne Twitch formidable sur laquelle tu fais du jeu vidéo. T'invites des gens à venir parler de sujets très intéressants. Récemment, t'as invité une gynécologue.
Sage-femme. J'ai dit gynécologue, elle m'a dit. Je suis sage-femme.
Oh my god.
Je supprime la story.
Elles ont pas les mêmes droits.
Oups.
Et effectivement, une excellente amie dans la vie. Mimi, c'est le rayon de soleil. C'est-à-dire que... Elle est toujours là, en fait. T'es une très bonne amie, je trouve, aussi, parce que t'es toujours là quand ça va, quand ça va pas. Et puis, on peut tout se dire, à tel point qu'on en a créé un format sur Twitch qui s'appelle BFF, Best Friends Forever, pour les anglophones. Et du coup, on a l'habitude de parler ensemble de nos vies et de jouer les meilleurs amis, parce que, comme vous l'aurez compris, du coup, c'est pas vrai dans la vraie vie, on ne se fréquente
pas. C'est du show business.
Voilà. J'avais tout compris.
Ça s'appelle pas Marie, hein.
Enfin, mais toi, tu vois, ta présentation, elle est forcément plus stylée.
Elle est super, la tienne.
Non, mais parce que moi, je fais moins de podcasts. Oui, je fais pas des podcasts, moi.
Tu fais du Twitch, c'est pareil, sauf qu'il y a de la vidéo.
Non.
C'est quoi ce blocage?
La première fois que Mimi est venue sur ta chaîne Twitch, tu l'as présentée.
Putain, c'est quoi? Attends, la première fois que t'es venue sur ma chaîne Twitch?
Bah, je pense que c'était le premier BFF, en vrai. Hein.
Ah
je,
oui.
J'ai pas souvenir qu'on ait fait un truc genre je viens sur la pause déj ou quoi, parce qu'en plus, moi j'avais un travail, n'est-ce pas?
Vous c'était aviez pas fait des soirées pyjama ou des trucs comme ça sur Twitch avant?
Il y avait le live On refait mon profil sur une appli de rencontre.
Ah oui,
je crois que ça, c'était le premier live qu'on a fait sur ma chaîne ensemble.
Quelle bonne idée, il faudrait en faire un format, dis donc.
Si seulement quelqu'un avait l'idée d'en faire un format.
Le faites pas, je l'ai lancé, c'est juste que je l'ai pas continué, mais il va revenir. C'est le dating Mimi.
T'as commencé à dire que vous étiez rencontrés chez Mad. Ouais. Donc Mademoiselle, c'est un webzine en ligne féministe et pour parler aux jeunes femmes. À quelle époque c'était? Est-ce que vous étiez... Il y avait une hiérarchie entre vous? Enfin, comment ça s'est passé, cette rencontre?
En fait, je sais pas, les premières fois où on s'est rencontrés, ça devait être en 2014-2015, non?
Je suis nulle en date, mais c'était autour des premières nuits originales.
Ouais, donc, c'est ça, de ton
un peu avant la première. Qui étaient des soirées, des nuits blanches organisées en live sur YouTube. À l'époque, il n'y avait pas Twitch. Par Thomas Hercouet. Et hébergé chez Mademoiselle, en termes de locaux, où le gratin du YouTube français de l'époque se pressait autour de la table pour faire des heures de discussion, de jeux, de tout ce que tu veux. C'était un bazar pas possible.
McFly et Carlito.
Et voilà, Flaubert, Adrien Méniel, vous connaissez si vous écoutez des podcasts, le Floodcast, Deux Heures Perdues, voilà.
Antoine Daniel, que des mecs.
Fabrice Laurent, mais aussi
l'équipe de Mademoiselle qui, en plus d'héberger, participer et assurer, on va pas se mentir, la parité, un petit peu.
Hein. Oui,
c'était
voilà.
C'est pas mal d'être hébergé par un magazine où il y a 15 meufs. Pendant les invités, t'as pas vraiment moitié-moitié. Donc on s'est rencontrés, je pense, un an avant la première nuit originale, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Moi, je bossais pas chez Mademoiselle à l'époque. Et puis, bah, j'ai été proche de plus en plus de l'équipe de Mademoiselle. On s'est pas mal croisés aux nuits originales que je fréquentais moi aussi à l'époque. Jusqu'au jour où Fabrice Florent, que j'étais allée voir pour prendre un café avec lui parce que j'étais perdue dans ma vie professionnelle, m'a dit mais attends, tu veux pas bosser avec moi, en fait?
Ça peut vous arriver, attention.
Voilà.
Fut un temps.
T'es jamais à l'abri.
N'importe quel déj avec Fabrice peut être là en mode tu veux venir travailler chez Mademoiselle? Et généralement, dans sa tête, ça fait un peu.
Ah, j'avais
c'est
pas
peut-être
pensé
ça que je voulais.
Ah ouais, en vrai, en plus, j'avais pas du tout envisagé à ce moment-là, parce que pour moi, Mademoiselle, c'était que les rédactrices, et moi, je voulais pas forcément devenir journaliste, rédactrice web.
Alors
et
que t'écris super bien.
C'est
tu avais déjà un super blog,
merci,
dans mes internets, dont j'étais fan.
Ouais. Qui n'est plus en ligne, ne cherchez pas. Non, mais c'est comme ça, ouais, qu'on s'est rencontrés au départ, plutôt dans ce milieu-là, qui était très. Bah, c'est très perso. Et puis après, on a bossé ensemble chez Mademoiselle, et puis on a monté des projets. Ensemble. Et il n'y avait effectivement pas de lien de hiérarchie entre nous, parce que moi, j'étais responsable des événements. Donc, mon manager, c'était Fab. Toi, Mimi, t'étais...
Je pense que quand t'es arrivée, j'avais pas de lien hiérarchique avec qui que ce soit, parce que je pense que j'étais peut-être pas encore rédactrice chef adjointe, ou alors je venais de le devenir, puisque moi, j'ai fait secrétaire de rédaction, rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef. Et après, je suis partie. Donc, moi, j'étais chef de... Je pense que quand t'es arrivée, j'étais non seulement pas ta chef, mais chef de personne.
Ouais.
Ensuite, je suis devenue, du coup, rédactrice en chef adjointe et rédactrice en chef. Et pour celles et ceux qui voient pas trop, en gros, ça veut dire que moi, je m'occupe de la ligne éditoriale du magazine et de ce qu'on produit. Donc, la ligne éditoriale des événements, ça rentre dedans. Mais j'étais pas ta chef sur combien on dépense, où est-ce qu'on le fait. C'était plus, on travaillait ensemble sur... Comment créer des événements, puisque c'est ça que tu faisais principalement, qui ressemble à Mademoiselle et qui donne vie IRL à notre ligne éditoriale, ce que tu avais très bien en tête, puisque toi-même, t'étais... c'est ça qui était cool chez Mademoiselle, c'est que c'est un magazine qui était fait par le public cible, donc par des jeunes femmes. Donc a priori, c'est dur d'être à côté de la plaque de la ligne édito quand la ligne édito, c'est la vie des jeunes femmes. Tu vois, et que t'es une jeune femme, a priori, déjà dedans, quoi.
À l'époque, en tout cas, c'était easy.
Voilà, ça se goupillait, c'était assez aligné, quoi. Et du coup, bah, on a commencé à bosser ensemble comme ça.
Comment est-ce que vous vous êtes dit, OK, ou alors peut-être que c'est arrivé bien plus tard, c'est plus juste ma collègue parce que... Parce que peut-être quand vous êtes partis l'une et l'autre de chez MAD, c'était plus clair, mais est-ce que ça arrivait avant quand vous étiez encore chez MAD ?
J'ai envie que tu répondes avant. Attends, est-ce qu'on a le même point de référence ou pas ?
Je sais pas, moi j'en ai deux. Je vais pas forcément rentrer dans les détails. Je dirais qu'il y a eu d'abord un événement compliqué dans ta vie à toi.
Ouais, ok, j'avais le même.
Un chamboulement dans ta vie personnelle et romantique qui a fait que bah, c'était aussi une équipe à ce moment-là, Mademoiselle, où c'était, alors j'aime pas le terme de safe space, mais en tout cas c'était possible d'arriver, d'être là, bah, je suis au 36e dessous parce que j'ai un problème perso, et de pas être jugé, de pouvoir en parler et trouver du réconfort, à la fois des gens qui vont juste te taper dans le dos et t'amener un Starbucks à midi parce qu'ils ont de la compassion, et des gens avec qui tu peux parler vraiment profondément si ça clique bien. Donc je pense qu'il y avait ça qui a fait cet événement dans ta vie, qui a fait que bah, on s'est pas mal parlé. En plus, je pense, moi à ce moment-là, j'étais déjà dans un discours assez... conscient autour des relations amoureuses, j'avais déjà découvert la relation libre et tout, donc peut-être que c'est pour ça que j'étais une interlocutrice intéressante aussi à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu une complication dans notre vie professionnelle à toutes les deux, donc plutôt liée au travail, qui a un peu, pour moi, achevé de nouer notre lien. Alors ça fait un peu, on a traversé les galères ensemble, mais en vrai ça...
Nous, on kiffe les crises, allez.
Non, mais je dirais que c'est ça qui nous a donné l'occasion... En fait, tu vois, j'ai l'impression que pendant plusieurs années, on était très bonnes collègues et on s'entendait bien, mais on n'allait pas boire des verres après le boulot en tête. Moi, j'avais d'autres gens dans l'équipe dont j'étais proche, notamment, bah, alors c'est bête, mais je fume des clopes et toi non. Et du coup, bah, mathématiquement, les filles qui vont fumer des clopes ensemble tous les jours développent un lien et tout, où les gens, moi, j'étais très chaude pour aller boire des coups, peut-être un peu trop, lol. du coup, bah, la team des gens qui sont toujours chauds, peut-être un peu trop pour aller boire des coups après le taf, bah, si t'es pas dedans, on a moins d'occasion de juste parler en dehors d'une pause déj avec tout le monde. Et pour moi, c'est ces deux moments-là qui ont fait qu'on s'est mis à passer du temps en tête-à-tête et à parler en tête-à-tête de comment on voyait les choses et le monde. Je pense réfléchir un peu ensemble à comment on allait traverser ça, tu vois. Il y a un truc de... Je sais pas, on s'est serré les coudes, mais on a conscientisé que ok, là c'est chaud pour telle et telle raison. Viens, on réfléchit ensemble à comment on peut sortir de ça.
En fait, j'ai vécu une rupture amoureuse hyper compliquée pendant mon passage chez Mademoiselle, qui n'était pas totalement déliée de Mademoiselle aussi, parce que la personne avec qui ça s'est passé connaissait toute l'équipe et tout, donc tout ça, c'était plein d'affect. Et c'était aussi pour ça que j'en avais beaucoup parlé avec Mimi, parce que c'était une période où je cherchais des réponses et dans des trucs que j'aurais pas capté, que j'aurais pas vu, et donc on en a beaucoup parlé. Et du coup, Mimi était une oreille attentive à tout ça, et c'était trop, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans mon passage chez Mademoiselle. Je pense que ça, c'est un ressenti individuel, ça convient pas forcément à tout le monde, mais les moments les plus compliqués, en fait, la team, elle était là. Et ça m'a aidé à grandir aussi. Et je crois qu'il y a plein de meufs qui ont eu cette expérience-là, qui sont passées par Mademoiselle. Et, enfin, de vivre dans cette communauté-là, ça les a aidés à grandir sur certains trucs.
Mais je pense que ça tient aussi au fait que tu étais sincère dans ta démarche de chercher des réponses. Tu vois, tu étais prête à être challengée dans ta façon de voir les choses. Tu étais prête à en parler et à pas, tu vois, il y a un côté, des fois, les gens ont juste besoin de râler et sur la personne avec qui ils rompent et c'est complètement OK. Moi, c'est moins ma cam, tu vois, j'aurais été là, mais râle, il n'y a pas de souci, mais je sais pas si ça m'aurait intéressé d'en parler pendant 2 heures avec toi, si c'était juste...
oh là là, je vais jeter toutes ces affaires par la fenêtre et mettre le feu à sa wagon, tu vois, j'aurais été là, bon, d'accord, c'est une rupture, c'est chiant et elle est compliquée, mais ça va.
Mais toi, t'étais vraiment sur, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler pour que j'essaye de mieux prendre la mesure de ce qui s'est déroulé et tout. Donc, je pense qu'on était sur la même longueur d'onde de comment on veut parler de ce genre de situation.
Mais en plus, je crois que dans ces moments-là, tu vas avoir des gens autour de toi quand tu vis des ruptures ou des événements compliqués. Du coup, tu vas gérer les choses d'une certaine façon, surtout quand tu es éduquée en tant que meuf. Moi, j'ai un syndrome de l'infirmière de ouf. Donc, du coup, il y a plein de moments où, avec des mecs, j'ai plutôt cherché les réponses de mon côté. Je me suis dit, ah, mais c'est parce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou ah, il faut que je répare ça. Il faut que voilà, je remettais pas forcément la responsabilité de l'autre au bon endroit, et je crois que ce qui a fait mes bons potes aussi de cette époque-là, et j'ai noué des rapports très forts avec les gens à ce moment-là parce que je pense que j'étais en vulnérabilité aussi, et c'est ça qui a fait que ça casse un peu la carapace. Les gens avec qui j'ai le plus noué, ils m'ont dit oui, mais oui, mais tu peux vivre les trucs comme ça, mais tu peux aussi peut-être voir les trucs sous cet angle-là, et c'était pas là que pour me caresser dans le sens du poil et de me dire soit oui c'est un turbo connard, soit ah non t'as raison, fais-le selon ton propre rythme et c'est ça qui est le plus important, c'est de t'écouter. Enfin tu vois, il y a eu un entre-deux hyper sain où en fait on m'a dit les choses sincèrement, et je pense que c'est ça aussi qui noue plus de façon plus authentique les liens.
Quand on se voit et qu'on passe du temps ensemble, il y a peu de papotage, tu vois, on se tient au courant de nos actus, qu'elles soient pro perso et tout. On se parle vrai, je dirais. On n'est pas trop là pour juste dire ce que l'autre a envie d'entendre ou quoi. Et je pense qu'assez vite, on a eu des discussions, même sur des choses sur lesquelles on n'était pas fondamentalement d'accord, qui étaient au moins dans l'envie de « vas-y, on se parle vraiment ». Et au pire, on n'est pas d'accord, mais on peut respecter l'avis de l'autre sans être d'accord. Donc on cherchait un peu la même chose, je pense.
On a des épisodes de BFF comme ça sur Twitch où il y en a eu un là. Attends, c'était autour de l'épisode du 8 mars. À la fin, le chat, il était là, mais elles sont en train de s'engueuler.
Est-ce qu'elles sont copines?
Nous, on était là, mais non, au calme. C'est juste qu'on n'a pas la même perspective sur telle histoire, c'est pas grave. Les gens, ça les a un peu paniqués, tu vois. Je trouve que c'est normal. En plus, on n'était pas du tout agressives l'une vis-à-vis de l'autre. C'était juste qu'on était en train de se dire,
d'accord.
Mais attends, tu trouves pas que ça, c'est une dinguerie. Toi, je sais pas, il y en avait une qui était là, bah non, pas tant que ça.
Mais c'est hyper challengeant de pas avoir même si vous avez les mêmes valeurs et le même socle, de pas avoir le même point de vue sur certaines choses.
Je trouve que c'est difficile de trouver des gens avec qui t'es pas d'accord des choses, parce que t'as tendance à t'entourer de gens qui sont globalement d'accord avec toi. Mais sortir de cette zone de confort, moi je trouve que c'est ça qui te fait grandir. Enfin, en tout cas, en tant que créatrice de contenu, c'est vers ça que j'essaie de tendre, c'est de... Tu vois, je dis souvent ouvrir les écoutes. On dirait je déteste ça, je viens de faire un truc de développement perso qui m'énerve. Je dis souvent ça, c'est important d'ouvrir ses écoutilles d'empathie, mais tu vois.
Ouvrir ses écoutilles.
J'ai envie de crever, de me. Vraiment.
Ouvrir ses écoutilles d'empathie, j'espère que ce sera le titre de l'épisode.
Oh là là.
C'est très joliment dit et extrêmement énervant, bravo.
Ça m'a énervé moi-même, tu vois. Et en même temps, je sais que c'est un truc qui me porte dans la façon dont je veux faire les choses. J'ai pas envie d'être tout le temps avec des gens avec lesquels je suis d'accord. Et c'est désagréable de voir des gens avec lesquels t'es pas d'accord et qui semblent fermés d'esprit et tout. Mais en fait, si je vais pas essayer de comprendre ces personnes-là, il y a une partie du monde qui m'échappe.
Oui, et en même temps, on n'est pas d'accord sur des trucs fondamentaux, tu vois.
Non, toutes les deux, non,
c'est sûr.
Des valeurs
alignées,
on a des valeurs communes.
On a même dans nos modes de vie et nos projets de vie, tu vois. Bah, on en a parlé récemment dans BFF de l'envie ou la non-envie d'enfant. Ouais. Bah voilà, moi, je veux pas d'enfant. Toi, t'es moins catégorique que moi, mais en tout cas, c'est pas dans tes projets immédiats, ni même forcément 100% certains. On a toutes les deux une vie professionnelle similaire et pas envie de retourner dans le salariat pour l'instant.
Après, j'aime pas le canard. Mais bon, ça,
t'aimes pas le canard ni les abricots, c'est un gros problème qu'elle m'a avoué tard.
Ça va, si t'aimes les champignons déjà.
Elle l'a admis il y a 3 mois qu'elle aime pas le canard. Ça fait années, si vous ne me connaissez pas.
Oui, parce que Mimi cuisine beaucoup et beaucoup de canard.
Oui, canard is love, canard is life. Et du coup, comme j'aime le canard et que je suis sympa, j'en fais souvent aux gens que j'aime, mais je me rends compte maintenant que j'en ai fait à Marie. qu'elle ne l'a pas apprécié à sa juste valeur, mais c'est pas grave. Voilà. On est en désaccord sur des choses qui sont canard-tire, c'est-à-dire très grave.
Je voudrais pas... qu'on arrête ce sujet, me met mal à l'aise. Donc, c'est un sujet cancel, on n'a pas le droit d'en parler.
Tu es un safe word.
C'est coin-coin le safe word.
Safe word malgré. Donc voilà, on n'est pas en désaccord sur des trucs fondamentaux. Et je pense que je dirais que le truc le plus important sur lequel on est d'accord et sans lequel rien de tout cela ne serait possible, c'est on est aligné sur la valeur de... Si quelqu'un d'autre vis-à-vis différemment de moi et que ça ne m'atteint pas, globalement, je m'en bats la race. Mmh. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet intéressant d'en parler et de confronter des points de vue, mais il n'y aura jamais un jugement de valeur et il n'y aura jamais cette envie de « je voudrais que cette personne fasse comme moi parce que je pense qu'elle a tort de faire différemment ». Tu vois. Mmh. Et du coup, ça nous permet de confronter plein de visions différentes de la vie. Tant que ça fait de mal à personne, on est plutôt aligné sur « ok, bah, au pire, je vais continuer à ne pas comprendre la vie de ces gens, mais c'est ok, ça ne veut pas dire que je la juge ».
Oui, parce que si vous vous connaissez suffisamment bien pour savoir jusqu'où aller et ne pas dépasser certaines limites sur les valeurs ou ce qui peut blesser dans vos échanges.
Franchement, je crois que tu m'as jamais fait de la peine.
Ah bah attends, je vais régler ça tout de suite.
La gueule était armée, tu l'as dans... Elle était dans la chambre là, la balle, c'est quoi?
T'as un Glock?
Non mais tu vois, je pense que tu m'as... Je n'ai pas souvenir d'un moment où je me suis dit, Marie, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit là, ça m'a blessée. Ce qui est ok, ça arrive.
Ouais, ouais.
On n'est pas la même personne, hein, donc c'est tout à fait possible. Et dans la plupart de mes proches, je peux me souvenir d'un truc où j'étais là. Ça m'a fait de la peine. Même une maladresse ou quoi. J'ai pas. Alors peut-être que je fais un déni, mais je me dis que si c'était arrivé, on en aurait parlé.
Ouais.
Soit sur le coup, soit si c'était arrivé à un moment où on se connaissait un peu moins et tout, peut-être j'aurais pas osé, mais on en aurait parlé depuis, tu vois, dans BFF ou quoi, ça serait sorti. Genre, ah oui, bah en fait, ce jour-là, quand t'as fait ça,
ouais, je pense.
Ça m'a fait de la peine.
Ouais.
Mais j'ai pas à souvenir. Et c'est quand même pas mal en plusieurs années d'amitié positif, de jamais. Même déçu, tu vois.
Ouais.
Genre ce truc de, je sais pas, genre moi je sais que j'ai déçu parfois mes deux très bonnes amies parce que quand je me mets avec un mec, j'ai tendance à être un peu all-in sur le gars et c'est arrivé qu'elle me fasse un peu des talks sérieux de bon, Mimi.
Des interventions.
Rappelle-toi que déjà on était là avant aussi et en fait on est toujours là, tu nous manques et on ne voit plus, on se sent un peu délaissé. Et ça pour moi ça compte comme bah, je leur ai fait de la peine, tu vois. Mais même ça, j'ai pas de. J'ai pas de souvenir.
Non, j'en ai pas le souvenir non plus. Puis je crois aussi, tu vois, moi je suis dans des types d'amitié où il y a des périodes où on va parfois se voir de façon hyper intense et puis d'autres où il va y avoir des creux, mais quand on va se revoir, ça va être exactement comme avant. Nous, on se voit fréquemment parce qu'il y a BFF qu'on fait ensemble tous les mois. On s'est mis un petit créneau de taf ensemble le mercredi après-midi aussi parce qu'on aime bien, on catch-up un peu sur nos actualités,
oui.
On s'aide sur le boulot et en vrai... Moi, je me disais, à un moment, par exemple, sur le créneau qu'on fait là tous les mois, est-ce que je le fais évoluer? Est-ce qu'on arrête le concept? Il n'y a aucun monde dans lequel je me disais, ah, mais j'arrête le truc avec Mimi. Je veux que si je crée un nouveau concept, que ce soit forcément avec toi et que cette récurrence elle, soit toujours là. Et du coup, je pense que ça, c'est une des particularités aussi de notre relation. C'est que bah, du coup, on est sur un truc assez régulier aussi.
On ne peut pas vraiment avoir ce truc de, ah zut, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. On ne s'en est pas rendu compte parce que la vie nous a mis des bâtons dans les roues. Parce que comme nos rendez-vous sont aussi professionnels, même si en vrai, bon, bah, par exemple, le mercredi après, on passe souvent beaucoup de temps à parler de nos vies.
Pas forcément beaucoup à faire du travail effectif,
mais parler de nos vies, c'est aussi parler de nos vies pro. Donc en vrai, c'est aussi du,
ouais, carrément, c'est
du brainstorm, du je suis dans telle galère, je me pose telle question et tout. Donc on travaille quand même un peu. Mais voilà, si on se voit pas pendant un mois, c'est qu'on n'a pas travaillé ensemble pendant un mois. Et ça, c'est chelou parce qu'on est quand même un peu toujours collègues finalement, même si on est indé. Et je pense que comme on tient à la fois à notre amitié et à notre collaboration pro, ça nous fait 2 soupapes de sécurité, tu vois.
Ouais, moi, ce mode de fonctionnement, il me rend un peu heureuse, quoi. J'aime trop ce mode de fonctionnement, c'est clair.
Et en même temps, si on se voyait que vraiment pour bosser et qu'on n'avait jamais une heure où on se parle juste de nous, tu vois, bah, ça me manquerait. Enfin, je pense que là, pour le coup, on finirait par s'en rendre compte et se dire attends.
Mais on se l'est déjà dit.
Oui, on s'est
ça
dit.
Ça nous est arrivé, ouais.
Là, pour le coup, ça fait un mois qu'on se voit vraiment que.
Ouais.
Moi, j'arrive, surtout bah, quand je travaillais encore.
Ouais, quand t'étais.
J'avais forcément moins de temps libre sur les horaires de personnes indépendantes.
Un travail.
Et en fait, je sors du taf, j'arrive. Marie, elle est en train d'installer BFL, tout ce qui est caméra et tout pour l'émission. Donc, on a le temps de papoter, genre une demi-heure max.
Ouais.
Après, on fait l'émission. Et en fait, ça dure 2h30, 3h. Donc, à la fin, bah, je rentre chez moi parce que je bosse le lendemain et qu'on est claqué. Et au final, bah, alors certes, on s'est parlé de nous pendant l'émission. Mais on s'est parlé de ce qu'on peut dire en live à ce moment-là.
Bah oui,
il y a tout un pan de notre vie immédiate où on n'est pas au courant. Donc oui, ça nous est arrivé de se voir un peu trop pour le boulot, mais là, ça fait un moment qu'on roule bien, je pense.
Ouais,
j'allais vous demander, justement, maintenant que vous faites la même chose, que vous êtes toutes les deux indées, donc plus chez MAD et tout, vous avez fait un épisode de BFF sur le travail et l'amitié. Est-ce que finalement, quand vous voyez, il y a toujours ce moment où vous parlez travail, où vous arrivez vraiment à couper, à vous dire, bah là, demain soir, on se voit et il n'y a pas de travail dans l'affaire, quoi.
En fait, ça sous-entendrait que dans notre vie, le travail, il soit complètement délié des trucs perso. Et moi, c'est, ouais. Ça n'existe pas.
C'est compliqué quand ton travail est créatif, déjà. Ouais. Ton petit mets de toi. Quand tu travailles chez toi, pas mal. Ou par exemple, ben, je sais pas si demain, Marie, elle doit changer d'appart. En fait, ça va aussi impacter son travail. Donc, ce sera parce que c'est là où elle stream et c'est là où elle fait, où elle a tout son matériel de live. Et pour peu que tu déménages, potentiellement, t'as 3 semaines, 4 semaines où tu peux pas faire de stream, ce qui est une question pro. Après, ça nous arrive... alors déjà, je pense qu'on pourrait se le dire, tu vois. Je pense que je pourrais tout à fait te dire... Viens, on déche demain et on parle pas de taf. On parle carrément. Juste du reste et vice-versa. Et bah, je sais qu'une des dernières fois où on a été boire un coup, moi, j'avais des trucs dans ma vie dont je voulais te parler. Et on a vraiment parlé que de ça, tu vois, sans se le formaliser. Mais bah, on a juste parlé de trucs perso, du coup. Donc, ça, on y arrive quand même.
Ouais, puis je pense que, comme tu le dis, l'aspect créatif aussi, il fait que parfois, tu vois, hier, par exemple, j'ai bossé chez Mimi hier après-midi et je suis arrivée et tu m'as dit... Et toi, comment ça va? Et instant, j'ai pas du tout pensé perso, tu vois. J'étais là, je me prends la tête parce que je suis en train de réfléchir à un projet que j'ai envie de faire financer et j'arrive pas à trouver un concept. Et tu vois, j'étais dans cette bulle de trucs pro, mais en même temps, ça prend de la place dans ma vie perso en ce moment parce que dès que je marche 10 minutes dans la rue, je suis là, bon alors attends, mais peut-être que je pourrais faire ça comme ça et tout. Tu vois, ça prend de la place. Moi, je sais que le travail, ça prend de la place dans ma vie globalement et qu'effectivement, il y a des moments où j'ai un petit peu plus de mal à switch off. En fait, quand on est là pour parler de perso, on parle perso, c'est sûr.
Mais je note que vu que tu as du mal à te détacher du travail, je vais un peu plus te poser des questions.
Et toi,
comment ça va dans le reste de la vie?
Comment ça s'est passé la transition entre le moment où vous êtes partie de chez MAD et le moment où vous êtes mis à faire la même chose? C'est toi, Marie, qui est partie la première?
Ouais, j'ai ouvert la voie.
C'est elle qui a commencé. Ça faute tout ça.
Bah, franchement, il y en a d'autres qui ont ouvert la voie. Je suis partie en avril 2021. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai commencé à être créatrice de contenu. Et c'est pour ça que ça s'est finalement fait assez naturellement avec toi, Mimi. Parce que instantanément, quand j'ai lancé ces choses-là, j'ai dit, bah viens, on fait des trucs ensemble sur Twitch. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, en termes de rythme, ça nous a un peu désynchronisés. Parce que toi, tu avais le boulot pendant la journée. Effectivement, tu vas boire des coups avec les collègues le soir ou des trucs comme ça. Alors que moi, en tant qu'indé, je peux dire, bah, je vais déjeuner. J'ai un rendez-vous pro là au déjeuner. Puis après, bah, si je veux bosser dans un café à 15h, enfin voilà. Ça,
la best vie.
C'est vraiment... Ouais, j'avoue ça que... Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie d'indé de façon compliquée parce que ça peut être un travail solitaire pour certains. Et moi, ma vie d'indé, comme je suis dans la prod, je passe mon temps à parler avec les gens. Je passe mon temps à organiser des choses avec des gens et du coup, je me sens jamais seule. Et il y a aussi quelque chose aussi qui fait que c'est pas aussi coupé et compartimenté que certaines personnes peuvent le vivre, c'est que nous, on a des conversations groupées, tu vois, sur Messenger, avec, bah, je sais pas, t'as un groupe de conversations avec des potes. En l'occurrence, avec Mimi, on en a une converse où on s'envoie des trucs, on s'envoie des liens. Donc, en fait, on se parle quasiment une fois par jour.
Ah oui, minimum, je pense pas qu'il y a une journée où on se dit pas un truc. Hein.
Ouais. Ouais, je pense. Et je pense que ça aussi, ça t'aide à pas te sentir seule. Dès qu'on a un questionnement, souvent, on s'en parle et on le pose dans ce groupe en se disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Enfin, et c'est pas les groupes d'entrepreneurs où tu connais pas les gens. Là, c'est des gens avec qui tu kiffes bosser et des potes aussi. Et du coup, c'est un autre regard, quoi.
Oui, en fait, quand on se dit on se parle au moins une fois par jour, des fois, c'est moi qui t'envoie un mème sur Daniel Radcliffe, tu vois. C'est toi qui réponds au JMDR et c'est notre échange de la journée. Et c'est le
et
même
c'est
groupe
très bien.
Où tu peux arriver 2 heures plus tard en disant « Ok, je suis en train d'essayer de faire financer un projet à 100K, si vous avez des idées.
Ouais. »
comme dans une réunion de boulot, tu peux à la fois avoir des gens qui font des vannes et puis les mêmes gens qui, 10 minutes après, parlent. Ok, on parle du projet, quoi. Donc, ça fonctionne bien.
Et c'est trop bien d'avoir réussi à se trouver là-dessus. Toi, Mimi, quand t'es partie de chez MAD, t'as été influencée par les indés que t'avais autour de toi, dont Marie, pour savoir ce que t'allais faire? Ou tu t'es dit, bon, je pars et je verrai bien ce qui m'attend?
Ah non, j'ai été clairement influencée, slash ça m'a donné une... Je pense pas que j'aurais osé me lancer en indé. Je serais partie de Mademoiselle, mais je me serais pas forcément lancée en indé. Si j'avais pas eu des exemples très proches en la personne de Marie et de Fab, qui a donc Fabrice, le fondateur de Mademoiselle, qui est passé avec moi dans Friendship et qui est maintenant podcasteur indépendant, qui se sont lancés en indé et qui faisaient un travail que je comprends et que je suis capable de faire. Alors tout l'aspect prod que Marie est là, moi je l'ai pas, mais je suis capable de faire du contenu, quoi. Et aussi d'être chef de projet, tu vois, j'ai été manager, j'ai été chef d'équipe, donc je peux aussi mener un projet à bien, même s'il a plusieurs facettes. Du coup, c'est du travail que je comprends, que j'aime, que je pourrais faire, que je sais faire, et je vois qu'ils gagnent leur vie et qu'ils ont un niveau de vie qui est clairement correct, en tout cas dans lequel je peux me projeter, quoi. Et bah, je vois aussi le revers de la médaille, enfin, les aspects un peu moins glamour. J'ai pas cette posture de simple viewer ou auditrice de podcast où je vois pas du tout comment ça se passe leur vie professionnelle. Je vois les galères, je vois les contrats qui arrivent pas, je vois les gens qui mettent 6 mois à te payer, je vois Twitch a changé son truc, maintenant je vais perdre un tiers de mes revenus, c'est top, merci Jeff Bezos. Donc je vois aussi l'aspect, bah, ça reste un taf. Et j'ai pu vraiment me projeter précisément dans, enfin le plus précisément possible, dans ok, à quoi ça pourrait ressembler. Et moi, étant une personne très anxieuse de l'inconnu, je me serais jamais lancée en indé. Enfin, littéralement, j'aurais pas su par où commencer, je pense. J'aurais été là en mode, d'accord, j'ai pas de travail, et maintenant je fais quoi? Genre, juste je vais sur Twitch et je fais des trucs. Donc Marie, elle a été d'une aide très précieuse pour tout ce qui est Twitch, et aussi mon compagnon qui m'a aidé notamment sur tout l'aspect technique, parce que c'est une Zumba. Donc clairement, oui, sans ces deux exemples-là, et notamment Marie, je pense que je me serais pas lancée en indé aussi facilement, en tout cas avec autant de... aussi peu de peur, finalement.
Ouais, je pense que le truc de modèle, il est hyper important pour... si tu veux te lancer en indé, parce que je comprends que ça te rassure de fou de voir... Puis même, c'est très concrètement, tu peux poser la question à... Putain, vas-y, je suis sur des trucs URSSAF, là, je comprends rien. Du coup, dans mes impôts, où est-ce que je déclare mes revenus? Enfin, je trouve que quand t'as des gens à qui poser la question très concrètement, c'est très soulageant. Quoi, il faut un comptable? Mais attends, t'as un numéro d'un comptable qui comprend un peu dans quel milieu on est? Enfin,
la réponse est oui. Marie a le numéro du comptable. Et c'est maintenant mon comptable. Je l'ai moi-même recommandé à 4 personnes différentes. Ah oui, je te
jure. Puis le fait que ce soit des amis aussi, on ose plus facilement poser des questions chiantes, enfin, administratives et tout, que quand c'est, comme tu dis, dans des groupes d'entrepreneurs où tu dis, bon, bah, ça fait déjà 15 fois que je pose une question, je vais pas revenir avec une 16e question pour faire chier tout le monde. Là, au moins, ça aide. J'imagine quand, notamment, c'est des trucs avec l'URSSAF et tout, où c'est relou, de pouvoir en parler plus facilement.
À partir du moment où on est pris sur une mission et où on a l'opportunité d'amener quelqu'un avec nous, ou s'il faut deux personnes, je dis pas que c'est automatique, genre ça va obligatoirement être Marie pour moi et je vais obligatoirement être ton choix, mais ça fait partie de la shortlist très évidemment, parce que juste on sait qu'on bosse bien ensemble, qu'on fonctionne bien, qu'on fonctionne de façon qui se complète, qu'on sait aussi se dire les choses quand ça va, quand ça va pas, qu'on parle d'argent de la même façon, tu vois, il y a ça aussi de... C'est pas un problème de parler facture, de parler pourcentage, etc. Et du coup, bah, c'est aussi rassurant de se dire si demain on me propose un projet ou que moi j'ai un projet qui est un peu trop grand pour moi, bah, j'ai des gens sur qui compter, que je serais contente d'amener avec moi. Et contente, je suis grave contente quand je peux faire bosser Marie. Et je pense que t'es grave contente quand tu peux me faire bosser, parce qu'il y a aussi, tu vois, on se hype mutuellement, quoi.
Pour en revenir un petit peu à BFF, comment est née cette idée et qui a eu l'idée? Est-ce que vous arrivez à vous rappeler?
Franchement, je sais pas.
C'est sur ta chaîne, frère, c'est ton émission. Hein.
Ouais, du coup, je pense que c'est moi qui ai eu l'idée, mais si c'est sur ma chaîne. Et il y a deux choses. Au départ, on était sur des questions qu'on avait développées sur Mademoiselle.
Tout à fait.
On avait créé un jeu de cartes chez Mademoiselle à l'époque où j'y étais, qu'on avait proposé aux lectrices, qui était un jeu de cartes. C'était les 52 questions pour t'aider à pécho.
Pour mieux pécho.
Pour mieux pécho. La meuf ne sait même plus quel jeu de cartes elle a créé.
De toute façon, je l'ai poncé, donc ça va.
il était basé sur des questions qu'on avait élaborées avec la rédac. Du coup, c'était trop bien, petit cadeau, Mademoiselle, quoi. Et le truc, c'est qu'avec Mimi, on se disait, mais ce jeu de cartes, il peut poser des questions un peu deep. C'est intéressant parce que ça permet de faire de la pédagogie sur comment est-ce que tu relationnes avec les gens, où est-ce que tu en es par rapport à la sexualité avec les personnes avec qui tu relationnes et tout. Je sais juste qu'on s'était basé sur ce truc-là en se disant, ce serait marrant qu'on y réponde en direct. Et je sais même plus d'où vient l'idée de se poser, parce que le setup de BFF, c'est qu'on est posé dans mon lit en mode soirée pyjama et on boit du jus de raisin avec et on mange des cacahuètes, voilà. Mais du coup, c'est une mise en scène effectivement qui est un petit peu particulière, que j'aime beaucoup, moi d'ailleurs. Je trouve le concept trop chouette.
Bah ouais, ça marche bien
pour le côté intimiste et tout.
On triche, on n'est plus en pyjama. Mais bon, on se rend compte qu'on a peu de pyjama dans la vie, en fait. On l'a pas.
Je t'ai fait des infidélités parce que je viens d'en trouver un chez Uniqlo, là, et je voulais te redemander pour le truc de broderie, parce que je pense que peut-être potentiellement c'est pas
bien. On va peut-être se faire des pyjamas personnels. Ah bon.
On s'en reparle.
Là, il va dans ta lessive et tout. Voilà. Je pense que peut-être qu'une progression logique qui me paraîtrait possible, c'est toi et moi, on passe une soirée, pas en live, juste pour le plaisir, à parler deep. On finit par se dire, un peu comme fut un temps, on se serait dit, tiens, on n'en ferait pas un podcast.
Oui, c'est ça.
On ne serait pas un bar. Ouais, on finit par se dire, mais ça ferait un bon live.
Oui, c'est ça.
Car tout ce qu'on raconte est passionnant. Donc, on se dit, il faut en faire profiter les gens. Et une fois qu'on a cette idée de faire un live ensemble où on parle, bah, on réfléchit à, OK, quel forme ça pourrait, est-ce qu'il y a un gimmick qui va autour, à quoi ça ressemblerait, et là est venue cette idée de soirée pyjama.
Ah, à mon avis une soirée pyjama, puis en fait je pense qu'on a eu l'idée à deux, tu vois, ça a dû être un truc de on fait une soirée pyjama,
mais ça aurait pu être toi qui lance ta chaîne et qui dans les formats que tu lances t'es là, je veux un format discussion, je veux que ce soit sur tel thème, du coup Mimi j'ai pensé à toi, mais c'était pas j'ai une émission, vas-y on la fait ensemble, c'était plus hey, ça ferait une bonne émission.
Ouais. Et pour le nom de l'émission, moi je trouve que c'est un peu engageant, parce que du coup ça a un peu un truc de classer les amitiés un peu quand même, le BFF. Ah, comment est-ce que les autres autour de vous l'ont pris
Est-ce que ta BFF elle est jalouse?
Et est-ce que vous êtes toutes les deux les BFF meilleures amies du monde et tout, et les autres c'est des amis quoi?
C'est une bonne question.
C'est compliqué de faire des hiérarchies dans les amours et les amitiés, parce que j'ai la chance d'avoir quatre meilleures amies qui sont Marie, Fabrice et mes deux très bonnes copines, Fanny et Soraya. Donc Fanny et Soraya, c'est des copines de... J'ai pas travaillé avec elles, c'est des copines de fac à la base. Et Marie et Fabrice, c'est d'anciens collègues slash patrons. Je compte aussi mon mec dedans, qui après 4 ans de love est quand même mon meilleur ami. En tout cas, on se connaît très bien et on fonctionne très bien. Et du coup, ça fait 5 personnes. Et c'est compliqué de faire une hiérarchie. Fanny et Soraya, je les connais depuis plus longtemps. Mais Marie, on bosse ensemble, on se parle tous les jours, on se voit au moins tous les mois pour parler deep. Fanny et Soraya, il y a des mois entiers où on est chacune occupée, mais on se parle quand même très régulièrement. Et je sais que si demain j'ai un cadavre à cacher, en vrai j'appelle Soraya. C'est un cadavre d'homme, elle est un peu misandre, elle sera là. Il y a pas de problème dans le jardin. Tu vois, j'appellerai pas Marie parce que Marie, j'ai pas envie de lui. Enfin, tu vois, Marie, elle est là. C'est quand même bien de suivre les règles, un shit et tout. Genre, c'est ma pote qui comprend l'administration française. Non, tu vois, je vais pas te mettre dans de la sauce de crème. Soraya, elle serait là. C'est pas grave, mon frère il connaît un coin, tu vois. Donc c'est pas possible de hiérarchiser pour moi, mais en tout cas personne dans mon entourage n'a été jaloux en mode ah ouais, c'est Marie, t'as bien fait, on a quand même 30 ans, tu vois.
Oui, moi je suis un peu d'accord, je pense que cette hiérarchie, la hiérarchie, bon je sais pas, il y a peut-être des gens effectivement qui continuent à faire cette hiérarchie là à nos âges, moi je trouve ça un truc un peu de collège, tu vois, de ah mais non, mais c'est toi ma meilleure amie. En plus moi j'étais tout le temps dans des groupes de meuf à trois, et c'était jamais moi la meilleure amie.
Je rigole. Et là, en plus, Mimi, elle vient de dire que t'étais pas que...
Ouais, du coup, ça me rappelle son traumatisme. Voilà, je suis jamais la première, mais c'est pas grave. Parce que pour moi, Mimi, toi, t'es en premier, mais bon, c'est pas grave. Non, je suis un peu pareil en vrai en termes de hiérarchie. Je trouve que c'est compliqué. En plus, tu sais, quand tu réfléchis à ta vie, dans mes proches, il y a ma famille, mes amis, mon mec, mon chat.
C'est vrai, j'ai pas dit Momo dans mes meilleurs amis, c'est mon chat. Mais je pense que c'est une relation toxique, donc faut pas que je la compte. Elle me fait trop de mal pour une meilleure amie.
T'es un peu sous emprise, hein, moi, j'ai
remarqué. Ah, donc, ruine pour elle en plus.
C'est pour ça, tu vois, les trucs de hiérarchie, effectivement, j'ai un peu du mal. Et puis surtout, je trouve que c'est cyclique. Il y a des périodes où on va être plus ou moins proche. Justement, tu vois, on va traverser des trucs et puis on va se sentir plus. Mieux à en parler à telle ou telle personne. Donc j'avoue que c'est un peu difficile de faire cette distinction. Perso, moi j'ai pas eu de remarques. Après, c'est vrai que j'ai, par exemple, j'ai une pote, je la qualifie toujours c'est ma pote d'enfance, quoi. J'ai cette étiquette là sur
certaines
personnes.
Ce qui est peut-être
plus
clair, tu vois, comme étiquette, c'est la personne qui te connaît depuis peut-être le plus longtemps et qui connaît des versions de toi que on connaît pas, quoi.
Ouais.
Mais enfin, que la plupart des gens dans ta vie actuellement ne connaissent pas. Ça veut pas dire que c'est la personne dont t'es le plus proche à l'instant T.
Ouais.
Et tu vois, je me disais, si demain, je sais pas, tu pars vivre à Londres parce que Daniel Radcliffe quitte la mère de son enfant et qu'il comprend enfin que t'es la femme de sa vie. Bah, tu vas vivre à Londres, bah du coup, tu seras plus l'amie que je vois au moins une fois par semaine et à qui je parle absolument tous les jours. Ouais. Par contre, tu seras peut-être l'amie pour qui je mets 500 balles dans une semaine à Londres parce que j'ai trop envie de te voir. Tu vois,
carrément.
Alors qu'il y a d'autres amis où on se voit à la maison, on fait des pâtes.
Ouais.
Donc tu peux pas hiérarchiser. Après, je me disais, peut-être un truc qui est intéressant à noter, c'est que on n'a pas tant les mêmes cercles. On a un ou deux cercles en commun, bah, notamment Fabrice et une partie des anciennes de Mademoiselle et quelques gens avec qui on bosse sur Internet, mais ton cercle d'amis proches et mon cercle d'amis proches, au final, on se connaît, bien sûr, je connais tes amis proches et tu connais Fanny, Soraya et tout, mais vous, entre vous, vous n'êtes pas devenus amis.
Ouais.
Donc on ne s'est pas retrouvés dans un truc de bande où tout est lié, tout le monde se connaît, machin. Genre, je pense, Fanny et Soraya, tu dois les voir deux fois par an, max, alors que je les vois vraiment toutes les deux semaines et que on pourrait complètement enchaîner, vas-y, Marie, viens boire un coup et je te propose.
Oui, en plus,
vous
ça bien, de
tu vois,
il
n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas si proches. Et moi, tes potes, je les connais. Enfin, tes amis, je les connais. Mais on est max potes. On n'est pas si proches et on se voit jamais sans toi, en fait. Tu vois, il n'y a pas ce truc.
Carrément.
Du coup, je pense que pour moi, c'est peut-être qu'il y a des gens que ça fait rêver, les grandes bandes d'amis. Moi, je pense que ça m'angoisserait plus qu'autre chose parce que les dynamiques de groupe et tout, ça me saoule. Mais du coup, ça nous permet aussi d'être vraiment, de garder chacune notre vie, tu vois. Et de pas, genre, plus rien avoir à se raconter parce que, bah, on va aux mêmes soirées avec les mêmes gens et on fait, et du coup, toute notre vie, soit on bosse ensemble, soit on est au bar ensemble, soit on, bah, tu vois tes meilleurs potes, guess what, c'est aussi les miens, donc je suis là, lol, enfin, tu vois, à la fin, on n'a pas le temps de se manquer. Là, on a le temps de vivre des choses de notre côté et de se les raconter après, donc c'est cool.
Comment est-ce que vous gardez une partie de vos vies privées quand sur Twitch vous racontez vraiment beaucoup, enfin j'ai envie de dire tout, mais j'imagine que vous racontez pas tout,
que non.
Mais vous abordez vraiment, bah là récemment vous avez abordé le sujet de la parentalité, vous parlez beaucoup de sexe, vous parlez bah, de votre amitié, vous parlez de vos expériences dans la vie quoi, donc comment vous faites pour vous imposer de garder une partie privée ?
C'est hyper délicat. Moi, c'est une question que je me pose constamment quand je raconte des trucs sur Twitch parce que, moi, ce que j'aime bien raconter, c'est ce qui relève de la politique de l'intime. Je pars du principe qu'on vit des choses qui sont politiques, qui disent beaucoup de choses de la façon dont on évolue dans la société, la façon dont on est entouré, des chances ou malchance qu'on a eu dans notre vie, des choses qui nous ont traversées et tout. Et ce truc de politique de l'intime, il sous-entend forcément cette mise en vulnérabilité sur, bah, sur plein de sujets sur lesquels je suis effectivement maîtresse. En fait, je peux décider de parler de tel truc ou pas parler de tel truc. On a fait un gros live avec Mimi et Fab, par exemple, où j'ai parlé de ce que c'est que de grandir avec un daron alcoolique, du coup, qui rend la famille un peu dysfonctionnelle. Et je me suis mise à poil dans ce live-là. Je le fais quand je sais que ça va servir aux gens. Il y a des personnes qui peuvent trouver ça impudique et qui ne veulent pas entendre parler de ces sujets-là de cette façon-là parce que ça les met mal à l'aise, parce que ça les gêne, parce qu'on ne parle pas de ça publiquement et tout. Moi, il y a certains sujets où j'aime bien le faire parce que je sais que ça lève des tabous et que ça fait du bien aux gens. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai rejoint Mademoiselle à l'époque. C'est que moi, j'étais une grande lectrice de Mademoiselle avant d'y travailler. C'est fou à quel point Mademoiselle a pu transformer la vision que j'avais de certains sujets que je ne connaissais pas, que je connaissais mal. Ça m'a ouverte à plein de sujets. Et ça m'a fait être plus empathique aussi vis-à-vis de choses que je ne vivais pas. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait. Et je me suis dit, si ça a fonctionné pour moi, il y a un monde dans lequel ça fonctionne pour d'autres personnes. Je crois qu'on a envie de tous vivre ensemble bien. On est dans une société qui est en tension, qui est conflictuelle, où il y a des crises, où les choses sont complexes, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. Mais à partir du moment où on arrive à se respecter justement et à se dire, ok, à partir du moment où ton mode de vie il n'impacte pas sur le mien, en fait tu fais ce que tu veux, bah, on pourrait vivre dans une société un peu plus apaisée. Et je crois que ça relève aussi beaucoup de la compréhension des gens, de la vie des autres personnes, de comprendre pourquoi ces gens-là font ces choix-là. Et c'est en ça que parfois, oui, je vais venir raconter des histoires que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'entendre au départ, mais parce que je me dis, il y a des gens à qui ça va faire du bien, parce qu'ils ont traversé les mêmes choses, surtout dans des parcours un peu traumatiques, avec des crises dans l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte. Mais aussi parce que des fois, je me dis, ça va leur faire peut-être changer d'avis sur des sujets, progressivement, pas du premier coup, parce que c'est long, on a des croyances qui sont ancrées, mais je me dis, bah, si j'arrive à changer un peu les choses à mon échelle, bah, c'est cool. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans cette politique de l'intime qu'on retrouve parfois dans les podcasts. C'est pour ça que j'écoute Les Pieds sur Terre sur ma chaîne Twitch le midi. C'est parce que ces témoignages-là, ils viennent raconter des choses qu'on n'entend pas forcément tous les jours autour de nous, surtout quand on est dans des bulles sociales avec des gens qui se ressemblent et tout. Et je crois que ça, c'est utile, que ça fait avancer un peu la société. Mais c'est peut-être une croyance naïve. En tout cas, moi, je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une croyance naïve. Même la productrice des Pieds sur Terre, Sonia Kronlund, je l'ai entendu dire en intervention, mais nous, on ne pense pas qu'on change les gens et qu'on change le monde avec le travail qu'on fait. Et j'étais là, mais pourquoi vous faites ce travail-là, du coup, si c'est pas pour ça? Parce que moi, c'est ça qui me drive. Et je me suis dit, putain, c'est ouf, parce que je l'avais en tête, je me disais, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais non, parce que moi, j'y crois. Donc, bon, bah tant pis, je vais continuer à y croire et... Et peut-être que ça manque d'humilité aussi, tu vois. Peut-être que c'est un truc où tu te dis ah bah vas-y, elle se prend pas pour de la merde à croire que juste parce qu'elle fait ça, ça va peut-être faire du bien aux gens ou ça va. Bon, en vrai, je sais pas. En fait, je me dis au pire, c'est un caillou jeté dans le lac et.
On peut pas dire que ça marche pas puisqu'on est la preuve vivante que ça marche. On peut dire, moi, Mimi Gale, 31 ans, je peux, main sur la Bible et main sur le cœur, dire ça m'a aidé de lire des gens qui racontent leur vie sur Internet. Donc. M'opposer que ça n'aide personne, je peux dire, en fait, littéralement, c'est la règle mathématique, quoi. Un contre-exemple suffit à annuler une règle. Je suis là, je suis la preuve vivante, même si on n'était que deux. En fait, il y a des gens que ça aide. Donc, tu peux pas me dire que ça aide pas. Juste que c'est pas automatique et qu'effectivement, les gens, tu prends un mec qui vote Zemmour, tu le mets devant un BFF, il va pas en sortir en se disant, mais bien sûr, les femmes, c'est super et tout.
C'est clair.
Mais il aura eu des graines dans sa tête de, j'ai vu deux meufs qui ont une vie qui est pas la mienne et des discours qui sont pas les miens. Et je les ai au moins écoutés. Et du coup, je les ai en tête. Et petit à petit, tout comme nous, on a évolué et appris en partie grâce à nos proches, mais aussi en partie grâce à tout le reste du monde qu'Internet nous permet de connecter quand même facilement. Il y a plein de graines qui sont dans leur cerveau tout le temps et il y en a qui pousseront et d'autres pas.
Et il y a plein de gens qui sont en zone grise. On en a parlé lors du dernier BFF sur la parentalité, le désir d'enfant et tout. Et en fait, ceux que moi j'espère pouvoir aider, c'est ceux qui justement ne disent ni blanc ni noir, qui sont un peu perdus entre tous les discours et qui se disent « Ok, là, ça vient apporter un peu de l'eau dans mon moulin. » Et moi, je crois que c'est sur cette zone grise aussi qu'on a le plus de chances d'accompagner les gens. C'est typico un mec qui est complètement du père et qui est entre les discours des incels et qui n'a pas encore de contre-discours et qui, pour autant, sent qu'il y a un truc qui n'est pas complètement réglo dans ce que les masculinistes viennent dire par rapport aux meufs, parce qu'ils disent, moi quand même, je trouve que les meufs, elles sont pas toutes comme ça, tu vois. De réussir à potentiellement le faire douter et le récupérer parce qu'on va avoir tel ou tel discours qui va le réconcilier avec certaines de ses valeurs, bah, enfin, je crois pas mal en ça, mais...
En fait, si ça marchait pas, personne le ferait, tu vois. Parce que les gars d'extrême droite, ils le font, t'inquiète, raconter des témoignages et des histoires qui apportent de l'eau au moulin, de leur façon de penser, de leur vision du monde, ils vont le faire. Et en fait, s'ils le font, déjà, c'est bien qu'il y ait un contre-discours, et aussi, c'est que ça sert à quelque chose. Après, j'ai une hot take qui est peut-être un peu paradoxale, mais je pense que l'intime, c'est surcoté. Je pense que les gens se prennent trop la tête avec c'est quoi l'intimité, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qu'on a grave peur de dire et de montrer, alors que genre, c'est normal, personne n'est spécial et c'est very ok, genre, moi comme toi, Marie, j'ai beaucoup appris à me connecter et à accepter tout ce qui peut être dans le champ de l'intime, donc à la fois évidemment la sexualité, mais aussi les émotions, la vulnérabilité, le fait que bah, des fois t'as l'impression que tes parents ils ont quand même pas été cool sur tel et tel truc, mais peut-être qu'on t'a dit il faut surtout pas penser ça, tes parents ils ont fait de leur mieux et tout, tu leur dois d'être reconnaissante ou de se dire bah, j'ai l'impression que dans ma vie je voudrais gagner plein de thunes mais que c'est un peu mal vu. Bah, en fait, Internet a eu ça de bon d'élargir les horizons du monde entier. Il a eu plein d'autres choses, il y a des aspects plus compliqués, mais en tout cas, ça ne peut pas lui enlever. Et moi, j'ai beaucoup appris qui je suis en voyant plein de gens être qui ils sont et en faisant ma tambouille perso de tiens, ça me parle, ça non, etc. Donc, ce n'est pas comme si j'avais trouvé une personne et je m'étais dit je vais être cette personne. C'était un enchaînement à la fois sur Internet. Et puis, comme ma vie professionnelle s'est faite dans un magazine web, bah, ces meufs qui parlaient d'elle sur Internet, c'est devenu mes collègues et parfois mes amis comme Marie. Donc, la boucle est bouclée. Et en fait, il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre comment je peux parler autant de choses intimes sur Internet. Je suis là, mais c'est. On s'en fout. Enfin, vraiment, si demain, tu trouves le journal intime de quelqu'un que tu connais pas. Une meuf, elle s'appelle Julie. Et tu trouves son journal intime où elle raconte ses émotions et la dernière fois qu'elle a couché avec son mec. En vrai, tu t'en fous. Il y a rien qui va te renverser la tête dedans. C'est juste, pour nous, c'est pour chaque personne, c'est la chose la plus précieuse qu'on a parce qu'on est la seule personne à expérimenter à 100% ses émotions et ses sensations. Mais la plupart du monde est quand même vit à peu près les mêmes choses. Donc, quand sur BFF, je raconte que je veux pas d'enfant, que j'ai eu telle partie jambe en l'air, que j'ai tel rapport avec ma daronne et tout, en fait, pour moi, c'est pas risqué de le faire parce que je sais, pour avoir été de l'autre côté et l'être encore tout le temps, parce que je suis autant consommatrice d'Internet que créatrice de contenu sur Internet, que les réactions vont osciller entre « Waouh, j'ai jamais entendu parler de ça » et « Oh waouh, c'est grave moi ». Et en fait, que tout le monde vit des trucs, donc c'est vraiment « Arrêtons de se faire tout un moulin de « Oh là là, je vais révéler une émotion ». Et je dis ça en étant une personne qui a du mal à parler de ses émotions, qui est en thérapie, etc. Je pense que mon sens de l'intime n'est pas du tout calibré comme celui qu'on m'a inculqué, en tout cas, où on m'a dit « ça, c'est intime ». Bah, par exemple, l'argent, tu vois, l'argent, c'est intime, il ne faut pas dire combien tu gagnes, il ne faut pas dire combien tu veux, etc. Non, l'argent, on en a bien besoin, donc pourquoi on s'en fait toute une charrette, quoi. Et du coup, moi, ma limite en parlant d'intime, alors il y a quelques trucs. En fait, à partir du moment où j'ai conscientisé une émotion, je vais avoir envie de la raconter. Ce qui dit probablement aussi des choses sur moi et sur comment je monétise mes émotions et mon intimité et tout. Mais à partir du moment où j'ai conscientisé et compris un truc dans ma vie, j'ai envie de le raconter. Donc je dirais que ce que je raconte pas, c'est les choses que moi-même, j'ai pas encore conscientisées. Quand je suis, par exemple, l'été dernier, il y a eu toute une période où j'étais vraiment pas bien émotionnellement. Et je comprenais pourquoi et pourquoi aussi fort. Et en fait, tant que j'ai pas compris pourquoi, j'en ai pas parlé publiquement. Mais j'en ai parlé, Marie, elle le savait, mes proches le savaient. Donc c'était intime, en partie parce que je ne savais pas d'où ça venait. Donc je pouvais pas vraiment raconter autre chose que ça va pas. Ce qui, pour moi, du coup, est pas hyper utile aux gens, entre guillemets. Je me vois pas faire un live pour dire « écoutez, ça va pas du tout ». et je sais pas pourquoi, et c'est la Hesse, et voilà comment ça se manifeste, ça pourrait. Il y a des gens qui le font. Moi, c'est pas ma vibe. Mais à partir du moment où j'ai à peu près compris d'où vient un truc ou compris ce qui se passe, j'ai envie d'en parler parce que je sais que peut-être si moi j'avais vu quelqu'un en parler il y a 3 mois, du coup, bah, j'aurais compris plus tôt. Il y a ça aussi. Du coup, mon curseur de l'intime, ça va être plutôt l'impact sur les autres gens de ce que je peux raconter. Je crois que c'était dans le fameux BFF. Non, on a fait un BFF 100% sexo il y a 2 ou 3 éditions et on a eu un gros débat sur c'est quoi la limite entre raconter ta vie sexuelle et raconter la vie sexuelle de tes partenaires. Si je viens dire sur Twitch, moi, ma vie sexuelle actuellement, elle ressemble à ça. Bah, les gens qui connaissent mon mec, ils vont savoir que c'est sa vie sexuelle aussi, a priori, en tout cas une partie. Donc, pareil, si je parle de mon rapport à mes parents, parler de mon rapport à mes parents, c'est OK, mais il y a des moments où je m'interroge sur quand je raconte comment ils m'ont élevé, c'est quoi leur vie, et du coup, qui ils sont en tant que personne. Bah, mes parents, c'est des personnes assez privées qui ne veulent pas du tout raconter leur vie, ni tout court, ni sur Internet. Et du coup, bah, je leur dois aussi le respect où s'arrête mon expérience et où commence votre intimité. Du coup, je vais plutôt être dans... Il y a des choses dont je parle pas sur Internet, pas tant parce qu'elles sont trop intimes pour moi, mais parce que soit ça m'attirait des problèmes parce que c'est des bails professionnels ou whatever, soit ça ferait de la peine à des gens que j'en parle publiquement, voire, et encore faire de la peine, ça peut être euphémisme, quoi. Enfin, ça peut être un vrai problème.
Sur Internet, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, donc vous êtes 2 femmes qui parlaient de sujets variés, mais aussi engagés. J'imagine que vous n'êtes pas à l'abri du cyberharcèlement.
En vrai, ça va. Personne me cyberharcèle, littéralement. J'ai même pas de filtre ou quoi. Je n'ai aucun relou dans ma life. 1 ou 2 fois par an, j'ai un random DM. Veux-tu m'envoyer une photo de tes pieds? Je bloque et c'est tout. Ceci n'est pas un appel à m'envoyer des DM. Envoie-moi une photo de tes pieds. Merci.
De t'envoyer instantanément un DM pour te demander des photos de tes pieds.
Toi, t'as le droit. Moi, je t'enverrai une photo de mes yeux. Attention.
Tu n'as pas besoin, ils sont là.
Ils sont là, tu peux les immortaliser sur ta table basse. Donc en vrai, je ne suis... Mais j'ai jamais été cyberharcelée très personnellement. Les cyberharcèlements que j'ai vécu, c'était Mademoiselle qui était ciblée. Parfois de par le biais d'un contenu que moi j'avais produit, voire où j'étais en premier plan comme des vidéos face cam, etc. Mais ça n'a jamais trop débordé sur mes réseaux perso. Et écoute, je ne suis pas cyberharcelée, voilà. Ça peut vous arriver d'être une femme sur Internet qui parle de sexe et qui n'est pas cyberharcelée.
D'être 2 femmes sur Internet qui parlaient de féminisme et qui ne sont pas cyberharcelées, parce que moi non plus, en fait. J'ai pas de problème particulier. Ma modération, elle est quasiment inexistante sur Twitch, même dans les moments où on a eu des homepages, donc des pages d'accueil sur Twitch. Donc, écoutez, vraiment sur la page d'accueil de twitch.com. J'ai pas eu de problème particulier. J'ai la chance de pas avoir d'érotomane au cul.
De stalker.
Je n'ai pas de stalker. Non.
Pas qu'on sache.
Non. Il y a toujours des gens un peu creep, tu vois, dans les communautés. Ça, c'est forcément. Enfin, ça arrive. Hein. C'est le chat. Hein. Ça arrive. Mais par contre, il y a pas de problème particulier. C'est des gens qui sont très gentils. Par contre, moi, j'ai vécu un cyberharcèlement, mais qui était plutôt celui de mon camp, de la part de féministes, notamment sur Twitter. Et ça a été le truc qui m'a le plus marqué en termes de cyberharcèlement, alors que moi-même, je tenais des discours anti-cyberharcèlement et justement anti-harcèlement dans notre propre camp. Parce que c'est un des harcèlements qui fait le plus mal. C'est quand tu as un dogpiling, des gens qui te tombent dessus, mais en masse, et qui appellent à te tomber dessus. En plus, moi, dans mon cas, c'était des choses qui étaient fabulées. Donc, mensongères, des droits tardifs, diffamatoires... Et le truc, c'est que, bah, en fait, si tu viens répondre en plus à ces choses-là, tu es dans cet entre-deux où tu te dis, bah, je remets une pièce dans la machine, ça va donner de l'attention à ce truc-là, et du coup, il y a des gens qui vont lire des threads mensongers et qui vont peut-être que ça va faire douter, ils vont peut-être croire que c'est vrai. Donc, est-ce que je donne de l'attention à ça ou est-ce que je passe à autre chose? Et ça a été une grosse question pour moi à ce moment-là. Je me souviens d'avoir écrit un thread Twitter avec toi à ce moment-là que je n'ai jamais sorti parce que justement, je me suis dit, je ne veux pas attirer l'attention. En fait, ce serait con parce qu'il y a plein de gens de ma communauté qui n'avaient pas. J'étais pas créatrice de contenu à l'époque. J'écrivais sur Mademoiselle, mais j'étais exposée pour d'autres raisons. J'étais une figure publique sur YouTube, pas en tant que youtubeuse, mais parce que j'étais la présidente de l'association Les Internets qui accompagne les femmes vidéastes, notamment sur YouTube, un petit peu plus que sur YouTube aujourd'hui. Elles font aussi du Twitch et tout. Mais du coup, c'est en ça que j'étais plus connue dans ce milieu-là. Bah aujourd'hui, voilà, le truc, il est passé, mais c'est plutôt ce type de cyberharcèlement que moi, je crains et que j'ai connu.
Et vous en aviez parlé avant de vous lancer ensemble sur Twitch, de dire bah, comment on peut prévoir si ça arrive, comment on se protège?
On passe moins de temps à se protéger du cyberharcèlement des masculins d'extrême droite que du cyberharcèlement de notre camp, justement. C'est plus ça qui va nous... vous interroger. Si demain on veut faire un live, bah par exemple, pour prendre un exemple d'actu réel, il y a eu la sortie de L'Héritage de Poudlard, le jeu vidéo Harry Potter, qui était une grosse actu sur Twitch, évidemment, parce que l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année, voire du monde, enfin de l'histoire du jeu vidéo, puisque premier vrai jeu vidéo Harry Potter, en vrai. Et bah, énorme problème de type de valeur sociétale et d'engagement. Entre le moment où le jeu a été annoncé et encore plus le moment où Harry Potter est sorti et le moment où le jeu est sorti, J.K. Rowling a renchéri et surenchéri sur ses positions transphobes, qui sont en plus un sujet de débat au sein des féministes, évidemment. L'inclusion des personnes trans et des femmes trans, pour Marie et pour moi, c'est pas un sujet de débat. C'est évidemment que les femmes trans sont les bienvenues dans notre féminisme égalitariste, n'est-ce pas ? Mais ça a pu être des... Alors, pour le coup, on était assez alignés sur « on va pas le streamer », mais ça a pu être des réflexions qu'on a eues de « est-ce qu'on en parle, tu vois ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on va donner notre avis sur cette polémique ? Même pas « est-ce qu'on y joue en live ?» Ce qui est plutôt genre « bah non ». Pourquoi vraiment tendre le bâton pour se faire battre ? Et aussi, genre, est-ce qu'on a envie de faire la pub d'un jeu qui, dans tous les cas, va à ton quart et qui, en plus, ouais, se trouve être clair. Assez médiocre ? Bah non. Voilà, c'est souris, hot take, j'ai le droit de le dire, hein, mais il est pas bien. C'est plutôt, ça fait consensus, quoi. Mais est-ce qu'on a envie de donner notre avis sur la question ? Et dans ce moment-là, on se disait pas, peut-être que les gens de droite transphobes qui militent contre les drag queens vont nous tomber dessus. On se disait, si on n'en parle pas bien, entre guillemets, d'après les avis divers et variés de plein de personnes sur Twitter qui sont jamais d'accord entre elles, c'est quoi les potentielles conséquences ? Ce serait un cyberharcèlement, mais plutôt qui vient de notre camp, à savoir des féministes, parce qu'on en aurait... On aurait été trop sympa avec J.K. Rowling, pas assez sympa avec J.K. Rowling, trop à parler des personnes trans, pas assez à parler des personnes trans. Oui, mais on admet qu'on va jouer au jeu. Ah, c'est très problématique. Oui, mais on va pas le streamer. Bah voilà, la cancel culture. Enfin, tu vois, on va jamais s'en sortir. Donc je dirais que quand on parle de se protéger du cyberharcèlement, moi j'ai l'impression qu'on en parle plus sur « Ok, si jamais on parle frontalement de sujets féministes et liés à l'égalité en général, qu'est-ce qu'on risque et comment on en parle pour se protéger, autant que faire se peut, de... Ah, il va y avoir cette petite phrase sortie de son contexte qui va nous mettre dans la sauce sur Twitter.
En fait, c'est toujours cette question de la pureté militante dans laquelle tu navigues dans nos milieux. Et en fait, moi, je suis team, vraiment, chacun milite comme il veut. Vous faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai ma façon de militer. Ce qui est difficile, c'est quand on vient te dire tu ne dois pas militer comme ça, tu n'es pas une bonne féministe. Tu vois, le cyberharcèlement que j'ai vécu, c'était du type des tweets qui disaient que j'étais une présidente d'association féministe que j'avais fondée et que j'étais pas féministe. J'étais là, attendez. Bon, et tu vois, c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'en fait, on vient remettre en question tes croyances, tes valeurs, ça casse light en plus. Moi, c'est un terrain sur lequel aujourd'hui, justement, j'ai plus envie d'aller. Mais aussi je crois que c'est aussi par conviction qu'on peut peut-être aussi trouver une autre voie pour parler de ces sujets-là, sans passer par des termes qui sont excluants. Qui sont
meuf, tu viens de
élitistes.
Dire gaslight, tu l'as pas du tout contextualisé. Ouais.
Ah oui, pardon, oui, gaslighter, c'est quand en fait des personnes te disent des choses. Comment je peux définir ça de façon claire ?
Le gaslighting, c'est faire douter une personne de sa perception de la réalité. Ouais. C'est quand elle perçoit des choses et elle dit des choses qui sont vraies et tu lui dis pas du tout. Genre typiquement, et c'est plutôt utilisé, enfin c'est souvent utilisé dans plutôt des relations toxiques, par exemple homme-femme ou quoi. Où ça va être un mec qui hurle sur sa femme, qui l'insulte, qui lui dit t'es vraiment conne, et le lendemain sa femme qui dit ça m'a vraiment fait de la peine quand t'as dit que j'étais conne, il va dire je t'ai jamais dit que t'étais conne. Et ça vient d'une pièce de théâtre où justement c'est un mec qui est toxique avec une femme, et où il change l'intensité de l'éclairage des lampes à gaz, d'où le gaslighting. C'est un peu comme si tu rentres chez toi et tout a été déplacé de 5 cm, tu vois, et t'es là... Et elle lui dit arrête de changer l'éclairage, et il dit je change pas l'éclairage. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'on va te faire douter toi-même. Et on va, il y a aussi, je sais pas, beaucoup de sous-entendus de oui mais on sait, enfin tu vois.
Souvent il y a beaucoup de ça s'appuie beaucoup sur des rumeurs, des choses comme ça. Mais
oui. Pardon, je t'ai coupé, mais parce que oui. T'as enchaîné.
Non mais non, t'as raison.
On peut en parler sans terme excluant. Et j'étais là, c'est un peu cocasse.
Ouais, non mais t'as raison. Parce que je sais que là on en parle en ayant, mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément les datas par rapport à ça. Mais c'est une question qu'on avait eue ensemble de dans quelle mesure même dans les titres de BFF on écrit le mot féminisme. Comment est-ce que quand tu veux parler, je sais pas, de J.K. Rowling, t'écris le mot TERF. Enfin, en fait, c'est comment est-ce que tu fais de la pédagogie, comment tu fais passer des messages aussi sur certaines choses, voilà, en étant le plus ouverte possible aux gens qui n'ont pas forcément cette culture-là au départ. Et attention, moi, je reviens sur un truc quand même, parce que je voudrais pas Tu vois, là, je préchote, mais je voudrais pas qu'on nous reproche de taper sur les féministes Twitter. Je pense que...
Tape sur le cyberharcèlement.
Ah oui, complètement.
Et sur les personnes qui cyberharcèlent.
Ce qui est un truc...
énormément de choses très importantes qui se passent en termes de lutte sociale sur Twitter et sur les autres réseaux en général. Hein.
D'autant que, en fait, c'est hyper important dans notre propre communauté qu'on soit vigilants et vigilantes les uns et les unes les autres aux idées qu'on véhicule, à la façon dont on fait les choses, parce qu'effectivement, il y a des moments où on peut ne pas se rendre compte qu'on blesse quelqu'un ou qu'on a un angle mort sur un sujet ou quoi. Mais c'est la façon dont on le fait qui est d'une violence inouïe sur parfois des choses qui relèvent du micro-événement, quoi. Et c'est un truc, moi, auquel je suis sensible depuis plusieurs années, à la façon dont on débat des choses, dont on se dit des choses, et la façon dont on fait communauté, parce que pour moi, une communauté, son but aussi, c'est de pouvoir être réhabilitatrice, d'être réparatrice, de pas seulement sanctionner, mais aussi de pouvoir aider les gens à avancer dans la façon dont ils conçoivent les choses. C'est un courant de pensée. Moi, je sais que je suis justice restauratrice. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt justice punitive. Mais moi, c'est ma forme de militantisme qui, du coup, parle plus.
On va parler un peu plus factuellement, peut-être. Quel est le meilleur moment que vous ayez vécu ensemble ?
Je pense qu'il y a un mix entre les pour moi, entre les moments où notre amitié a commencé à... J'aime bien dire prendre, tu sais, c'est comme des trucs que tu mets au frigo et t'attends de voir que ça prenne et tu les check régulièrement et au bout d'un moment, t'es là, ah, ça prend, c'est cool. Ou comme un gâteau, tu vois, si tu vérifies avec le couteau. Ouais. Et au bout d'un moment, il ressort propre et t'es là, ok, ça a pris. Je pense qu'il y a des moments, les premiers moments où notre amitié a pris, peut-être que dans mon... Je suis une personne qui a tendance à un peu, des fois, contempler la vie comme un roman ou comme une fiction et à me dire, ah, c'est là que ça commence, tu vois. Ou, ah, c'est là que c'est le début de la fin. Ou, ah, c'est un peu une péripétie, c'est une de mes façons de rationaliser la vie. Et du coup, je suis souvent un peu, des fois, je suis un peu en recul et je me dis, ah, c'est là où ça, voilà, c'est là où il se passe un truc. Et je pense que les premières fois où on a bu des verres et on a commencé à parler deep, j'ai dû avoir ce truc de, ah, c'est là où il y a un truc, peut-être on va être amis, tu vois. Mmh. Et c'est cool. Et en plus, je pense que je l'ai pas dit, mais de base, moi, j'étais toujours beaucoup admirée, tu m'as toujours beaucoup impressionnée parce que j'avais l'impression que t'étais une meuf qui avait beaucoup de choses que moi, j'avais pas. Notamment, j'avais l'impression que t'étais hyper pro, que t'avais pas du tout peur. Moi, j'ai une grosse phobie administrative, je suis pas une personne très ordonnée et tout. Et toi, t'es carré et ça fait partie de pourquoi on travaille bien ensemble, tu vois, c'est qu'on se complète bien aussi. Niveau réflexion féministe, sociétale et tout, enfin, je te trouve hyper, je te trouve toujours hyper inspirante et tout. Donc, il y avait un peu ça aussi de, j'étais pas fangirl, tu vois, mais genre, je devenais pas amie avec n'importe qui, tu vois, je devenais amie avec Marie, genre, la classe.
C'est... Non, mais c'est réciproque de fou, moi, j'étais là. Je veux dire, c'est Mimi. Mimi, excusez-moi, mais, là, non, mais c'est Mimi. Marie, hein. Genre, c'est la meuf chez Mademoiselle, quand même. C'est une des meufs les plus basées de Mademoiselle, tu vois. Genre, puis même, tu vois, c'est marrant parce que des fois, même les gens, je le ressens même par rapport à la façon dont les gens me le renvoient de « Ah, mais du coup, t'as vu Mimi hier, ils sont sauf fangirl, fanboy. »
Attends,
ouais,
mais
moi,
j'ai des potes fans de toi.
Oui, et moi, je suis là. C'est une de mes meilleures potes avec qui on boit des verres de vin le mercredi après-midi quand on bosse ensemble.
On s'est mis cheveux gras.
On va tout savoir sur ces après-midi de travail.
Écoutez, ça charbonne sec. Non, du coup, oui, je pense qu'il y a des moments voilà, plutôt perso, tête à tête de « Oh, are we friends ?» qui me restent en tête. Et puis des moments pro vraiment cool, tu vois, où en fait on a vécu des ferveurs chouettes chez Mademoiselle, ouais, avec les gros stuff par exemple, qui était un projet que t'as mené en fait. Enfin, donc les gros stuff, c'était quand même des soirées de 1500 personnes qui n'existaient pas. Et un jour, on a eu Marie dans l'équipe et après elles existaient, quoi, ce qui est quand même fou.
Vous en aviez fait quelques-unes, mais avec une autre boîte de prod événementielle,
c'était des soirées 100% ouais, Mademoiselle, quoi. Et ça a fini par être des soirées où des meufs de l'équipe ont été formées à mixer du son, celles qui en avaient envie, et où du coup elles finissaient par mixer devant 1000 personnes.
Enfin, et aujourd'hui on a Louise qui est DJ professionnelle et qui organise ses propres soirées. Je suis là, waouh,
ouais, ça commence à Mademoiselle. Des petites graines plantées. Oui, il y en a qui germent, quoi.
Ouais, c'est trop bien.
Et je pense que voilà, on a vécu des moments de ferveur cool, mais un peu à deux, tu vois. Pas que avec l'équipe, il n'y avait pas ce côté genre. Alors des fois, on fait un before avant, mais c'était pas. Genre match de foot, on est dans les vestiaires ensemble en mode ok, on va lancer la soirée, les meufs, on est 15 et tout, on arrive en gang. T'arrives, tu fais ton before avec tes potes, t'arrives quand tu veux, juste t'arrives et tu te dis je travaille chez Mademoiselle et du coup t'as pas à faire la queue, mais c'était pas, voilà. Il n'y avait pas d'enjeu de fou pour la boîte. Mais on avait des moments toutes les deux où bah, en plus il y avait pas mal de gros stuff où c'est moi qui prenais le micro au tout début pour déclarer la grosse stuff officiellement ouverte. Du coup, on était que toutes les deux avec Marie en mezzanine et il y a un truc de. juste toi t'es là et genre c'est toi qui l'as fait, tu vois, cet événement. Ouais, c'est parce que tu l'as fait que tous ces gens sont là. Et moi, je prends le mic pour ouvrir et faire créer les gens. Et après, on est toutes les deux sur la mezzanine. Et il y a genre comme un homme de Mulan qui se lance.
Fou,
et la
foule.
Et on voit les gens se mettre à hurler, à jeter en l'air leurs glow sticks. Ils ont tous, on avait à chaque fois des accessoires débiles à thème, parce que les gros stuff étaient à thème, qui étaient répartis dans le lieu. Donc petit à petit, tu vois de plus en plus de gens avec des chapeaux à paillettes, des bouées géantes. Et puis plus la soirée avance, plus c'est de travers et tout machin. Et bah, Marie et moi, on était là et c'était
trop
des chouettes moments. Ouais. En vrai, les moments durs qu'on a partagés, tu vois, donc bon, le moment de ta rupture, c'était plus dur pour toi que pour moi, parce que bah, guess what, c'est pas moi qui étais dans une rupture. Et j'avais pas des billes dans votre couple, tu vois, j'étais pas.
T'étais actionnaire du couple ou pas?
Non, j'avais repris mes parts. Non, j'avais quand même le faire part du mariage, hein. Je devais venir à votre mariage. À part ça, ça va, j'avais pas encore acheté la robe, c'est bon. mais j'étais pas en mode, ah non, je vais perdre un ami ou l'autre, tu vois, c'était pas. On n'était pas si proches, justement, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à devenir proches. Mais sur l'autre événement plus professionnel où c'était dur pour toi, c'était dur pour moi, qui est arrivé il y a quelques années, bah, pour moi, ça fait partie des moments forts dont je me souviens aussi. D'être en galère ensemble et de pas trop comprendre exactement ce qui se passe et quoi faire, mais d'être contente d'avoir l'autre, tu vois, pour toi.
Ouais, d'être ensemble dans ce moment-là. Ouais, c'est
pas
clair.
Juste de pas être toute seule, mais d'être avec cette personne.
Ouais. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses du quotidien qui me rendent juste très heureuse, tu vois. Les petites soirées BFF. Enfin, franchement, je pense que c'est le. On a fait une résidence d'écriture ensemble.
C'était si bien.
Oui, avec une maison, avec piscine, avec d'autres meufs. J'ai trop kiffé ce moment-là aussi. C'est Mimi qui m'avait invité au truc. Enfin.
Faut qu'on refasse ça.
Oui, j'ai peut-être fin de l'été.
Ah, les historiques de mon bazon. Ça, c'était trop bien. Ça, c'est okay, oh, ça notre meilleur moment, bien sûr. On commençait à devenir amis, puisque c'était après ta rupture, mais avant la galère pro. Donc, c'était le sweet spot de on est amis, on est collègues, il n'y a pas de galère et
cool.
Tout. Et grâce à Marie, je me suis retrouvée on m'a proposé d'être community manager, donc de faire de gérer les réseaux sociaux du festival Les Historiques de Montbazon, qui à l'époque était un festival qui réunit des vidéastes qui parlent histoire, qui a été créé par Nota Bene et sa compagne,
qui s'appelle Kali.
Donc, c'est un gros vulgarisateur historique de YouTube. Et Marie, je sais plus ce que tu faisais là.
Moi, j'étais au nom des internets.
Ah oui, bah oui, je suis bête.
Ouais, en intervenante.
Et donc moi, j'étais là, non seulement j'y allais, mais j'étais payée pour y aller. Et Marie était intervenante. Et du coup, on s'est retrouvés dans une forteresse, je sais pas, quelque part en France.
Montbazon à côté de Tours.
Ouais. Ah, bon, à côté de tout, voilà. Montbazon, c'est dans le nom, mais alors où est Montbazon, je ne sais pas. Il faisait hyper beau, c'était genre en plein été. Ouais. Et comme on était employés ou intervenantes, on avait accès à l'espace VIP pour pas traîner avec les gueux et traîner avec les vidéastes. Mais on avait aussi free pass pour tout. Et il y avait des gens qui, quand on était dans l'espace VIP, ils tenaient à ce que ce soit les bénévoles qui nous amènent notre bouffe et tout. Et qu'on n'avait pas allé la chercher, donc en plus on se faisait servir, enfin c'était abusant, il faisait 35 degrés, c'est les gars clair. Ils allaient faire la queue au barbecue, j'étais en mode mais laissez-moi aller chercher ma saucisse, ouais, c'est clair. Mais du coup on était vraiment comme des coqs en pâte, royal au bar, et on a passé 2-3 jours à se balader dans le festival, on a tiré l'arbalète un moment,
c'est vrai,
on a bu de l'hydromel, on a mangé des saucisses, beaucoup, et Marie était dans un glow incroyable, moi j'étais là, en plus je suis payée pour... La go m'a dit, si tu peux faire peut-être un tweet par événement, c'est bien. Je fais, non, mais je vais faire plus que ça. C'est quand même pas beaucoup, quoi. Donc, vraiment, je croulais pas sous le travail. Et c'était juste trop bien. Ça, franchement, c'est une core memory de, ah yes, week-end trop bien.
Ouais, c'était, en plus, le contexte, il était vraiment gaulerie parce que moi, j'avais débarqué avec, j'avais deux ex qui étaient au festival, qui étaient invités aussi. Et je débarquais avec mon nouveau mec.
Ah, qui était aussi dans
invité,
les
oui, et qui était invité
dans
lui aussi.
Milieu, quoi.
Ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie par contre.
Et là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle est cool avec son nouveau petit gars, les deux autres ils ont le seum. On est là, on boit du rosé et tout, c'est trop bien.
Moi, j'ai pas fait exprès en plus, j'avais pas calculé les trucs et tout.
Ça date quoi, c'est pas.
Non, puis les historiques, c'était un formidable festival. Franchement, SO à Ben et Kali qui organisaient ça, ils ont organisé ça 3 ans d'affilée, si je me souviens bien. Et après, ça ne l'a plus fait, mais c'était super, vraiment.
Qu'est-ce qui fait la force de votre amitié, selon vous ?
Bah, pas ma cuisson du magret de canard, déjà.
Je crois que c'est pas passé. Hein.
Je crois que c'est difficile
d'avoir qu'il progresse. Moi, je dirais que c'est qu'on veut les mêmes types de relations amicales.
Ouais.
On veut pas exactement la même chose dans la vie, même si voilà, on a des envies d'indépendance à plein de niveaux, à la fois bien sûr professionnelles, mais on parlait de, on n'est pas forcément parti pour le mariage, le concubinage, faire des enfants et tout. Donc je me dis aussi, c'est bien d'avoir des amis où je peux me dire dans 10 ans, je suis pas sûre que whatever happens, elles, a priori elles auront une maison et des enfants et moi non, et du coup nos vies seront différentes potentiellement dans 10 ans. Mmh. T'es encore dans cet appart. Mmh. Et tu fais le même taf mais en mieux, et moi je fais le même taf mais en mieux, et on boit du vin blanc en se disant, tu te souviens il y a 10 ans encore,
ah,
on
parlait dans le micro de Solène. La permanence des choses,
c'est pas que j'aime bien la permanence des choses, c'est que je me sens, je vois tellement de meufs trentenaires qui sont tristes parce que toutes leurs proches changent de rythme et ouais, qu'elles se sentent seules du coup,
ouais,
que ça me rassure de me dire, dans les femmes qui m'entourent notamment, a priori, je suis pas partie pour me retrouver la seule child free non mariée avec un métier bizarre dans 5 ans, tu vois. Donc ça c'est cool. J'aime bien la permanence. Oui, j'ai peur du. En même temps, je suis en mode choisir c'est renoncer, donc ça, l'engagement ça me fait peur. Mais j'aime bien la permanence, donc c'est. Bon, j'en parlerai à ma psy.
Mais c'est paradoxe.
C'est précieux les relations qui durent, parce qu'en fait. Même si je me dis peut-être dans 5 ans, toutes mes amies actuelles auront changé de vie et moi aussi, mais je me serais fait des nouvelles amies qui ont le même rythme de vie. Mais ces amies-là, elles ne m'auront pas connue maintenant. Tu vois. Il y a tout un pan de ma vie où juste elles me connaissaient. Et je trouve que c'est précieux d'avoir des gens qui étaient avec moi dans certains moments de ma vie, et ça nourrit à quel point on se connaît. Et tu vois, genre, il y a plein de choses de notre amitié qui viennent de on a traversé ci et ça ensemble. Je sais comment tu réagis à tel truc parce que je t'ai vu. Bah, par exemple, tu parlais du fait que tu as été victime de cyberharcèlement. Bah, je sais, j'étais là avec toi quand c'est arrivé, tu vois. Et si demain on n'est plus amis et que t'as une autre amie qui remplit un petit peu le rôle que je peux avoir dans ta vie, elle n'aura pas vécu ça avec toi, quoi. Elle t'aura pas vu à ce moment-là. Et elle t'aura pas connu à ce moment-là. Donc j'aime bien quand même les choses qui durent, je dirais. Donc peut-être que j'aime bien la permanence. C'est possible. Hein. Et en même temps, je suis très open à des fois les relations finissent et c'est ok. C'était bien.
Ouais.
Peut-être dans 10 ans, on sera perdu de vue, j'espère pas. Mais si ça arrive et que c'est pas parce qu'on est fâché et que c'est juste la vie, je suis là, bah ok, c'est la vie. Ouais, et peut-être que 20 ans après, enfin, peut-être que dans 20 ans, on se reconnectera et on redeviendra super potes. Ouais. Tu vois, c'est aussi. Tant que personne est mort, il y a toujours moyen de renouer avec les gens, je pense. On a des envies alignées pour le moment, notamment sur le type d'amitié qu'on veut. Et ça revient à la façon, tu vois, on se parle de la même façon, on parle des mêmes sujets, on a envie de parler assez vite des vrais trucs. Tu vois, c'est rare qu'on se tiennent la jambe pendant 2 heures avec les séries qu'on regarde en ce moment et tout. C'est plus genre... Ok, du coup, mon rapport à l'argent en ce moment, tu vois, moi, ça, c'est café 1. Tu vois, il n'y a pas de mise en jambe, quoi.
Moi, je pense que c'est la simplicité, tu vois. C'est le terme qui me vient en tête, c'est la simplicité. C'est que, bien sûr, on se capte, mais... Enfin, on se capte, on se comprend et on se connaît bien aussi. Donc, ça nous permet aussi de mieux s'appréhender. Mais il y a, tu sais, il y a des gens avec qui c'est simple et c'est fluide. Et du coup, je crois que ça, c'est une force dans une relation, cette forme de simplicité-là. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs principaux, en plus de tout ce que tu as dit, ouais.
Et très aussi, bien. En vrai, des rêves communs et un univers à la fois de l'imaginaire et aussi dans notre pratique de l'Internet et tout. Tu vois, genre, je pense que plein de gens vont écouter ce podcast et être là, elles parlent bizarre. Genre, elle
dit des mots chelous,
on est là,
méta, data,
le lore,
le chat,
on est à homepage. Bon, ça, c'est des trucs un peu Twitch, mais même en général, je pense que, enfin, tu vois, on peut se faire des vannes où pour les comprendre, il fallait être au bon endroit sur le Twitter féministe francophone de 2015.
Ouais.
Quoi, tu vois. Mais en fait, même avant, à ce moment-là, on était beaucoup moins proches amis, mais on était par contre déjà dans les mêmes univers. Et du coup, je pense que notre amitié s'est aussi construite sur. C'est une des rares personnes où quand je fais cette ref, elle l'a, tu vois.
C'est
cool d'avoir des gens qui ont cette ref.
Parce que c'est chiant quand tu fais une blague et que personne ne la comprend. Bon.
Là, elle est incroyable. Si vous aviez le contexte, vous l'auriez, elle est incroyable. Bah, nous, on est là, ah, t'es con, c'est une bonne vanne. Voilà.
Est-ce que vous avez des projets ensemble qui arrivent en tête, sur lesquels vous travaillez? Pas forcément au niveau travail, hein, ça peut être aussi au niveau perso.
Viens, on fait les meufs mystérieuses. Alors qu'en fait, on n'en a pas encore parlé.
Ouais, on bosse sur un gros projet, mais on peut rien dire.
Avec Zendaya. Mais non, on peut pas dire avec Zendaya.
Non, on n'a pas de projet avec Zendaya. Non, bah, on a. Alors, BFF n'est pas parti pour s'arrêter. Donc, en tout cas, voilà, BFF continue pour 2023. Voilà,
on réfléchit à la formule.
Oui, ça va peut-être évoluer. Ouais. Mais comme tu l'as dit, on a envie de continuer ensemble. Et après, c'est vrai qu'on a, par exemple, on n'a pas de week-end. On n'est jamais parti en vacances ensemble. On est jamais parti en week-end ensemble. On n'a pas un truc calé, genre, vas-y, cet été, on se loue un truc avec piscine et on va adorer ou on va en Normandie faire un petit tour des petits villages mignons. Donc peut-être qu'on peut rajouter ça sur la liste.
Ouais.
Mais on, du coup, on n'a pas trop de projets définis, mais on sait qu'on va traîner ensemble.
Ouais. Très bien. Non.
Oh non, plus, hein, tout le temps là.
Oui, parce qu'au final, quand vous êtes partis, c'était bah, pour le travail, quoi. Un festival, une résidence d'écriture et tout. Donc c'est marrant que vous soyez jamais partis juste entre vous, quoi. Non.
Après, j'ai pas fait beaucoup de voyages entre copines en vrai. Hein. J'en ai fait, bah là, j'ai une de mes autres meilleures amies, désolé Marie. Fanny, c'est la deuxième fois, ça fait 2 ans d'affilée qu'on part une semaine ensemble en Espagne, c'est trop cool. Mais à part ça, j'ai fait des week-ends et des vacances en couple. Mais, et après, entre potes, mais genre, on est 5-6, tu vois. Ce qui n'est pas pareil qu'à deux. Mais il n'y a qu'une personne avec qui j'ai fait des voyages en tête à tête. Et ma grande sœur, quand même, ça compte. C'est cool. Maybe 6 mètres.
Autant en faire. Dans les questions que je vous ai envoyées, je vous ai demandé quelle musique vous faisait penser l'une à l'autre et pourquoi.
Aucun souvenir de ce que j'ai raconté.
Ouais, je me doute bien. Est-ce que vous avez une réponse, même si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez mis?
Si, moi, je crois que j'ai mis Mimi, elle n'écoute pas la musique, elle n'aime pas ça.
C'est très vrai.
C'est exactement ce que tu as dit.
Oui, c'est ça. Après, c'est pas une chanson que j'aime bien, c'est une chanson qui te fait penser à moi, c'est pas pareil.
Ouais.
Peut-être, alors je sais que t'aimes bien les Beatles, donc peut-être que j'ai mis un truc des Beatles. Here Comes the Sun.
T'avais mis les Beatles, Because Marie.
Ok, tout à fait sur cette question, hein, toi et moi. On s'est pas creusé le cul en mode, c'est une chanson qui parle d'amitié, mais aussi d'intelligence. On est là, je peux aller à rien ou je peux aller à l'aime. Donc peut-être on n'a pas bien taffé la question.
Ah non, mais en fait, c'est marrant parce que moi, c'est une question que j'aime bien poser parce que. Je sais que j'ai beaucoup de musique. Quand je les écoute, j'ai limite mes potes qui se matérialisent devant mes yeux quand ça fait longtemps que je les ai pas vus parce que ça me fait vraiment penser à eux. Et du coup, vu votre profil et notamment vu ton profil à toi, Mimi, qui écoute pas de musique, je trouvais que c'était marrant les réponses que j'ai eues parce que vraiment, bah, vous avez pas de réponse commune, quoi. Alors que souvent, les gens trouvent quand même
vrai,
des musiques.
C'est bizarre parce qu'en vrai, je fais ça, tu vois. Genre, j'écoute pas beaucoup de musique, mais je sais que des fois, j'écoute des chansons et je me dis, ça me fait trop. On dirait qu'elle a été écrite pour machin. Mais si j'en ai pas qui m'est venu immédiatement, bah, après, je connais aussi 4 chansons maximum, donc. Ça, oui. Si j'en ai pas qui m'est venu immédiatement pour toi, c'est que j'en ai pas à tout court.
Dont celle de Dora l'exploratrice.
Omari de Johnny. C'était chiant ta vie l'année où Omari est sorti.
Ah, c'était chiant, ouais.
Ouais, ouais. Yes. Ouais, on a un peu le même prénom, en vrai, Myriam, c'est Marie en arabe, c'est vrai. Hébreu, selon c'est... comment tu l'écris. Donc,
parce que c'était écrit, Mektoub.
Et oui, c'est le Mektoub. Elle est si blanche.
C'est l'heure de passer à la boîte vocale. Marie et Mimi se sont laissés un message l'une à l'autre. Elles découvrent leurs mots maintenant. Et on commence avec le message de Marie pour Mimi.
Bip.
C'est le
bip de la messagerie vocale. Mimi, merci d'être dans ma vie. Elle est trop cool, ma vie, avec toi dedans. Je suis tellement heureuse que tu aies croisé mon chemin et qu'on ait eu la possibilité de grandir ensemble. C'est vraiment hyper épanouissant pour moi et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Je voulais dire que t'es trop forte, meuf. Putain, t'es trop forte. T'es trop forte et je pense que t'es une source d'inspiration du quotidien. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Voilà, je déteste enregistrer des trucs. Tu le sais. Bisous. JTM.
Salut Marie, je te fais un audio parce que j'ai la flemme d'écrire. Je sais pas trop quoi te dire que je t'ai pas déjà dit à la fois dans cet excellent podcast qui est Friendship, mais aussi dans tous nos BFF et aussi dans le reste de la vie. Mais je suis vraiment très heureuse et blessée de te compter parmi mes amis. Et j'ai beau avoir parlé du fait que j'aime les amitiés pérennes et les choses qui durent dans le temps, je pense que je me suis très vite sentie chanceuse de t'avoir et que même si on se connaît pas depuis 20 ans, t'es devenue une pierre angulaire, un des repères de ma vie, et c'est vraiment chouette. Et je pense que la vie est déjà assez compliquée comme ça pour la traverser seule, et que parmi les plus belles chances qu'on a, c'est de trouver des gens avec qui on est aligné et on résonne sur la même fréquence. Et je suis vraiment très contente de t'avoir trouvé, et j'ai hâte qu'on fasse encore plein de projets, qu'on boive plein de verres de chardonnay, et peut-être qu'on parte en week-end ensemble, qui sait, un de ces quatre. Des bisous, je t'aime.
Donc vous êtes toutes les deux laissées un message l'une à l'autre que vous découvrirez à la diffusion de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite dans votre amitié?
On repart pour 10 ans, ça peut être pas mal.
Ok, Patrick Bruel.
On se retrouve dans 10
jour,
ans.
Même jour, même pomme.
Oh putain, longtemps j'ai cru que c'était même porte. Hein.
Qui marche aussi, parce que c'est à la même
place. Je me disais, franchement, tu te retrouves à la même porte, tu te donnes un rendez-vous précis.
Oui, mais s'il y a eu urbanisme entre-temps, la communauté de communes a rasé le bâtiment.
Alors, attends, dans 10 ans, on se donne rendez-vous où, du coup? C'est juste
sur Internet.
D'accord, super. Allez. C'est vaste, c'est pas
vaste. On habite, franchement.
Non, très bien. Ouais, c'est une bonne conclusion.
Et ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans Friendship et merci de vous être livrée.
Merci à toi, Solène, trop cool.
Et merci à vous d'avoir écouté.
Oui, merci l'audience.
Oui.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, tes collègues autour de la machine à café, mais aussi sur tes réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 25 avec Mimi, encore une fois, et Fab, dans lequel on parle de relations patron-employé, de différences d'âge et d'amitié homme-femme. En attendant, je te dis à dans 2 semaines dans Friendship. Ciao! Découvre tout de suite un extrait de l'épisode de Gaëlle et Anaïs. L'épisode arrive dans 2 semaines.
Pour moi, il n'y a pas eu de compète. Je pense que justement, on était un peu le binôme contre le reste de l'humanité. Enfin, c'était un peu ça.
Non, pas tout à fait le binôme contre le reste de l'humanité. Non. On s'est quand même fait des potes.
On s'est fait des potes, ouais. Non, donc non, pas contre nos potes. Puis je dirais surtout qu'on était aussi complémentaires sur pas mal de trucs. Alors, enfin, ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais Anaïs et moi, on fonctionne pas exactement de la même manière. On n'est pas pareil. On est très amis, mais on n'est pas pareil. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu le yin et le yang, quoi. Et du coup, sur la première année de médecine, enfin, moi, je me souviens toujours en ANAT de ce cours où Anaïs prenait les schémas parce qu'Anaïs est beaucoup plus soignée. Et moi, je notais ce que disait le prof parce que j'écris mal, mais j'écris vite. Et du coup, c'était un peu ce côté-là de « toi, tu prends les schémas, c'est soigné, ça ira bien, on aura les schémas. » Et puis moi, je prends les commentaires, quoi.
Puis après, le soir à la maison, on regroupe tout, quoi.
Exactement.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.